Attends,
possède.
ouais, c'est bon, non, non, c'est bon. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour à tout le monde. Bienvenue. Bonjour. Merci Jaycon, merci Phil Sensei pour vos resubs, merci beaucoup. Pouet, pouet, pouet. Merci Monsieur Phi pour le raidage. Bienvenue les viewers de chez Monsieur Phi, bonjour. Je suis Jean Massier, je fais des streams d'actualité politique pour faire du décryptage de la pédagogie, tout ça, et aujourd'hui on fait une FAQ politique. Vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous avez, et si je peux essayer de vous aider, eh ben j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Merci pour ce stream, tu vas me faire oublier mon moment grosse déprime. Ah! Bah écoute, tant mieux, si je peux y participer avec grand plaisir. Courage à toi. Est-ce que ça va? Merci Ryan. En direct des plages de Zanzibar. C'est où Zanzibar? Ah, c'est au large de la Tanzanie. Sympa. Est-ce que Saint-Jean-Luc est toujours pas le grand protecteur de la vie de la nation? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quoi? Merci Glagarde pour ton resub. La Tanzanie, c'était la semaine dernière en safari. Sympa. Bon courage. Enfin, bon courage, non, pas du tout. C'est chouette. T'as eu combien au bac de philo? Pff, aucun souvenir, j'ai dû avoir 10. Mention ouf. Bonjour, bonjour, hein. Bonjour tout le monde, bienvenue. Est-ce que tu pourrais désactiver le mode lent? Ah oui, bien sûr, excusez-moi, pardon. Qu'est-ce qu'il fout là le mode lent? Pardon, 30 secondes, c'est beaucoup en plus. Pardon, pardon, pardon. Bonjour, bienvenue, hein. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que t'as regardé l'audition de Schiappa au Sénat ce matin? Non, mais j'ai vu que Marlène Schiappa était auditionnée ce matin par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire du fonds Marianne. C'est cool parce que le... Enfin, c'est cool. Le Sénat continue son travail via ses commissions d'enquête parlementaires. Mine de rien, depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, le Sénat a retrouvé une utilité intéressante autour de ses commissions d'enquête. On en a vu plusieurs, hein, sur le Covid, sur le fonds Marianne, sur l'affaire Benalla, sur plein de trucs. Donc ils font un bon boulot. J'en profite pour vous rappeler que les commissions d'enquête parlementaires ne sont pas des instances de justice. Le but n'est pas d'établir la culpabilité des gens, et encore moins de leur donner des peines. Le but des commissions d'enquête parlementaire, c'est de contrôler l'action du gouvernement, sous-entendu de contrôler l'exercice du pouvoir par les dirigeants, dans le but d'éventuellement mettre à jour des dysfonctionnements pour y remédier en votant des lois. D'accord? En parallèle de la commission d'enquête parlementaire sur le fonds Marianne, il y a une enquête menée cette fois-ci du côté de la justice par le parquet national financier qui pourra éventuellement renvoyer devant la justice des personnes si jamais ils estiment qu'il y a matière à poursuite. Voilà. Est-ce que ce contrôle peut aboutir à une plainte portée par un procureur de la République? Oui, une commission d'enquête parlementaire peut donner naissance à une saisine du procureur, bien sûr. Mais le Parlement n'est pas une instance de justice, c'est pas son rôle. Et c'est pas grave, c'est chacun son job, la justice c'est la justice, le Parlement a un rôle de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques. Et si jamais une commission d'enquête parlementaire montre par son travail qu'il y a eu des dysfonctionnements, alors c'est le rôle du Parlement, qu'il se donne à lui-même du coup. Les conclusions d'un rapport de commission d'enquête parlementaire peut donner naissance à des évolutions législatives tout à fait normales. Le Sénat pourra dire, bon bah, compte tenu des conclusions auxquelles nous arrivons, nous pensons qu'il faut faire évoluer de telle et telle manière, Par exemple, attribution des subventions, je sais pas, renforcer les contrôles et tout, on peut imaginer plein de trucs. Mais ça, c'est un autre job que celui de la justice. La justice, de son côté, elle regarde si la loi a été respectée ou pas. Et si d'aventure elle n'a pas été respectée, quelles en sont les responsabilités, les culpabilités éventuelles et les peines? Est-ce que c'est possible une commission d'enquête dans une majorité absolue? Alors oui, commission d'enquête, déjà, c'est possible dans les deux chambres du Parlement, y compris dans la chambre du Parlement dans laquelle t'as pas la majorité absolue. Et ensuite, les commissions d'enquête parlementaires peuvent être déclenchées par des groupes minoritaires. Merci Simon Poussière pour ton sub. Merci Imariel Sup pour ton resub. Merci pour vos abonnements. Donc si la commission du Sénat dit qu'il y a eu un problème, il faudrait attendre qu'il y ait une proposition de loi pour que le gouvernement ne rejette pas. Non, si la commission du Sénat dit qu'il y a un problème, alors le Sénat pourra adopter un amendement dans n'importe quel projet ou proposition de loi future sur le sujet, ou dès le budget, par exemple. Groupe d'opposition plutôt que groupe minoritaire. Ah non, non, tous les groupes, y compris le groupe majoritaire. On appelle ça un droit de tirage. Tous les groupes de l'Assemblée nationale ont la possibilité de déclencher une commission d'enquête parlementaire par session, je crois. Ou par an, je sais plus. Est-ce que les commissions d'enquête respectent la répartition de la Chambre? Les groupes, enfin les commissions d'enquête sont composées effectivement à la proportion de la représentation politique des groupes à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences si la personne qui va à la commission parlementaire ment? Oui, en l'occurrence, dès lors que tu es auditionné par une commission d'enquête parlementaire, tu prêtes serment de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, machin là. Et tu peux donc te rendre coupable du délit de parjure si d'aventure il était établi que tu avais menti, sciemment, après t'être engagé à dire la vérité. Donc oui. Peut y avoir des. Alors là, pour le coup, des conséquences juridiques, ça c'est un délit, oui. Est-ce qu'il reste des options pour abroger la loi de réforme des retraites? En fait, il y a plus d'options pour abroger la loi qui a été pas votée, mais qui est entrée en vigueur. Parce qu'elle est entrée en vigueur. En revanche, ce qu'un parlement fait, un parlement peut le défaire, et donc il peut toujours y avoir des retours en arrière plus tard. Un nouveau gouvernement, une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale à l'avenir pourra très bien, si elle le veut, réformer à nouveau la réforme des retraites pour rebouger l'âge légal de départ à la retraite. Pour le porter à 65 ans, ou pour le porter à 62 ans ou à 60 ans, etc. Et entre-temps, il y aura aussi la possibilité de faire un référendum d'initiative partagée, même si les conditions sont très difficiles à réunir l'année prochaine. Il y aura toujours la possibilité de voter des amendements dans le budget. À l'automne prochain. Donc voilà. Penses-tu que la jurisprudence de l'article 40 par Madame Braun-Pivet va donner une légitimité au blocage de toutes les propositions de loi du gouvernement à l'avenir? Alors, le gouvernement ne fait pas de proposition de loi, le gouvernement fait des projets de loi. Un projet de loi, tu ne peux pas le bloquer avec un article 40. En revanche, la jurisprudence dont tu parles, c'est le fait d'utiliser l'article 40 pour bloquer préalablement des propositions de loi. Ça, cette nouvelle jurisprudence, elle pourra effectivement se retourner contre, non pas le gouvernement, mais contre la majorité, si des groupes minoritaires jugent qu'à ce petit jeu-là, eux aussi, ils peuvent s'amuser à bloquer. Donc effectivement, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo sur YouTube, c'est effectivement dangereux. Ce petit jeu-là est dangereux, y compris pour Yael Braun-Pivet et pour la majorité, parce que s'ils veulent jouer au con, les groupes d'opposition aussi pourront s'amuser s'ils le veulent à jouer au con. Et ça, personne n'y a intérêt. Que penses-tu des Français qui s'expatrient par choix politique et économique? Alors s'expatrier par choix économique, ça s'appelle une immigration de travail. Ben j'en pense rien. Les gens vont habiter à l'étranger parce qu'il y a du boulot, c'est ce que je te dise. Et les gens qui s'expatrient par choix politique? Il y a des gens qui sont allés s'installer en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine parce que ils préfèrent la Russie. J'en sais rien. Pas beaucoup. Depardieu, non, Depardieu, c'est pour des raisons fiscales. On appelle ça l'évasion fiscale. Merci Péritoine pour ton resub. C'est quoi l'article 40? J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur le sujet si ça t'intéresse. L'article 40, c'est un article de la Constitution qui empêche les députés de faire ce qu'on appelle de la démagogie budgétaire, c'est-à-dire de déposer des amendements ou des propositions de loi qui créent des charges supplémentaires sur l'État sans les compenser. Sauf que l'usage de l'article 40, donc il peut permettre de rendre irrecevables des amendements, ça c'est assez habituel, mais sur les propositions de loi, c'est plus inhabituel. Et là, en l'occurrence, ça a été le cas sur une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites, qui a été jugée irrecevable par la présidente de l'Assemblée nationale, alors même que l'usage à l'Assemblée veut que, en principe, on n'utilise pas l'article 40 sur les propositions de loi des groupes minoritaires, parce que sinon, il n'y aura plus jamais aucune proposition de loi de personne, et ça, c'est pas dans l'intérêt du Parlement. L'article 40 est quand même symptomatique du parlement scepticisme des constituants. Alors, Debré n'était pas un parlement sceptique. En revanche, c'est effectivement un outil majeur de la rationalisation du parlementarisme. Ça, c'est un mot un peu technique pour se la péter dans les copies de philo, dans les copies de droit constitutionnel à Sciences Po. La rationalisation du parlementarisme, c'est justement l'ensemble des outils, dont l'article 40 est un très bon exemple, c'est vrai, qui ont été mis en place pour limiter, pour rationaliser, pour être plus exact, l'exercice des droits des parlementaires, dans le but d'éviter les blocages institutionnels. Le 49-3 est un aussi très bon exemple d'outil de rationalisation du parlementarisme. De Gaulle l'était un peu quand même, il voulait limiter les pouvoirs du Parlement en réaction à la Troisième et Quatrième République. Oui, mais c'est pas du Parlement scepticisme, c'est de la rationalisation du parlementarisme. C'est pas tout à fait pareil. Mais c'est vrai qu'on est allé très loin dans la rationalisation. On est allé très très loin dans la rationalisation, peut-être trop. Beaucoup des critiques que vous entendez contre la présidentialisation du régime de la Ve République sont des critiques qui disent que le parlementarisme est trop rationalisé et qu'il faudrait donner davantage de pouvoir au Parlement. Le problème, c'est que donner davantage de pouvoir au Parlement, ça ne passe pas seulement par le Parlement, ça passe aussi par les autres pouvoirs, notamment l'institution présidentielle. C'est ce qu'expliquait très bien. Merde, c'était qui? Merde. Je sais plus quel constitutionnaliste qui disait le problème de la Ve République n'est pas au Parlement, le problème de la Ve République est à l'Élysée. Parlement, il va très bien, le problème, il est à l'Élysée. Président de la République qui n'a pas de compte à rendre parce qu'il est indépendant de par sa fonction et qu'il est irresponsable politiquement, c'est pas en changeant les règles au Parlement qu'on va régler le problème. C'est pas Garrido? Si, alors Raquel Garrido, c'est une députée qui travaille sur la question de la Sixième République depuis un bout de temps. Mais elle est d'accord avec cette phrase hein, que je viens de prononcer, mais je sais plus qui l'avait prononcée cette phrase-là en disant le problème n'est pas au Parlement, il est à l'Élysée. Cet article 40, il est encadré d'une certaine façon ou c'est juste on fait confiance au jugement infaillible du président de l'Assemblée nationale? Ça me semble un peu facile. Alors, c'est pas le... enfin, alors là, on va rentrer dans la technique technique. C'est plutôt le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale qui s'occupe de l'utilisation de l'article 40 et pour le coup, c'est un président d'opposition. Sauf que là, justement, contextuellement, dans le sujet qui nous intéresse, il y a eu un conflit entre le président de la commission des finances et la présidente de l'Assemblée nationale qui, elle, s'occupe de la recevabilité des amendements en séance publique. Je ne rentre pas dans le détail. Oui, il est encadré, l'exercice de l'article 40, par des années de jurisprudence sur les amendements notamment, mais il est aussi encadré par un usage et une pratique en matière de proposition de loi. Et c'est ça qui a changé. C'est ça qui a changé sous l'impulsion d'Yael Braun-Pivet, qui a mis fin à une jurisprudence, ou à un usage, pour être plus précis, politique, qui en était fait, qui justement était de ne pas en faire usage. Salut Jean, c'est quoi un PLFR s'il te plaît? C'est un projet de loi de financement rectificatif. C'est un projet de loi de finances rectificatif. Quand on vote le budget, c'est une fois par an et c'est pour l'année suivante. C'est comme dans les associations, hein, tu sais, on vote le budget en assemblée générale, c'est-à-dire qu'on vote un budget prévisionnel pour l'année suivante. Donc on prévoit combien de pognon on va faire rentrer dans l'association et on prévoit combien de pognon on va dépenser pour les actions de l'association. Et bien la France, c'est pareil. Chaque année, le Parlement vote une loi de finances, oui, c'est ça, qu'on appelle aussi un budget pour l'année prochaine, et il prévoit combien d'impôts il va y avoir, et il prévoit aussi combien de pognon il va dépenser pour l'armée, pour l'école, pour machin et tout. Ça, c'est des budgets initiaux, comme on dit. Mais en cours de budget, en cours d'année, en cours d'exercice comptable, on peut voter des lois rectificatives, des budgets rectificatifs pour changer la politique en cours de budget. C'est ça qu'on appelle un budget rectificatif. Un PLFRSS, c'est pas une réforme des retraites. C'est une réforme des retraites. Le PLFRSS, c'est un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Donc c'est exactement la même chose que je viens de vous dire, mais pour les comptes de la Sécu. Okay? La réforme des retraites a été adopté par un PLFRSS cette année. Effectivement, c'est un budget rectificatif de la Sécu qui a été le véhicule choisi par le gouvernement pour réformer les retraites. Comment interpréter l'abstention de la France insoumise et autres à propos de la loi de programmation militaire? Bah, ils l'ont dit eux-mêmes, la France insoumise ne souhaite pas apporter un blanc-seing à l'usage qui est fait des forces armées dans le cadre de la guerre en Ukraine. C'est une manière pour eux de s'opposer à la politique diplomatico-militaire de la France et des pays européens dans le cadre du conflit notamment ukrainien, mais pas seulement. Voilà. Il y a aussi une tradition anti-guerre au sein de la France insoumise. POI, trotskiste et tout. Alors, il y a un pacifisme de gauche historique, altermondialiste, effectivement, depuis très longtemps, que tu retrouves chez la France insoumise, bien sûr. Il y a aussi et surtout un anti-atlantisme qui fait que la France insoumise, les communistes, les écologistes sont historiquement hostiles à l'OTAN, à la mainmise des États-Unis en Europe en matière de défense. Donc oui, non, oui, t'as raison. Oui, non, c'est pas surprenant, pour aller plus loin, c'est pas surprenant que la gauche de la gauche ne vote pas un budget militaire. Ça, faut pas trop s'étonner, oui. J'aimerais en apprendre un peu plus sur ce qui est géré par les collectivités territoriales, mais ça a l'air dense comme sujet. Est-ce que tu as des pistes et par où commencer? Bon, tu peux commencer par le site internet de ta mairie, hein. C'est con à dire, mais c'est le premier truc. Non, mais pour faire très simple, tu as trois niveaux de collectivités territoriales. Tu as la mairie, tu as le conseil départemental et tu as le conseil régional. C'est facile à voir, ça s'emboîte sur une carte, etc. Attention, 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 ce n'est pas une hiérarchie. C'est pas parce que la mairie, c'est plus petit que le département, qui est lui-même plus petit que la région, qu'il a moins de pouvoir ou qu'il est subordonné à l'étage du dessus. Ce ne sont pas des étages. Le territoire, ce ne sont pas des millefeuilles. Ça, c'est une très mauvaise image, le millefeuille territorial. C'est pas parce que c'est au-dessus que c'est plus puissant ou plus d'argent ou plus de machin. Pas du tout. Les collectivités territoriales agissent dans un certain nombre de ce qu'on appelle des domaines de compétences. Elles ont l'exclusivité de la compétence dans leur domaine. La mairie s'occupe du ramassage des déchets. Point. Le département ne s'occupe pas du ramassage des déchets. Donc il n'est pas plus puissant, il ne peut pas donner d'ordre à la mairie sur le ramassage des déchets. Non, non, il ne s'en occupe pas. Ça ne le regarde pas, c'est la mairie qui s'en occupe. La mairie s'occupe de l'eau. Voilà. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Donc chacun a son domaine de compétence. Pour faire très simple, la mairie va s'occuper de la gestion des enjeux les plus locaux en matière d'aménagement, les permis de construire, les trucs comme ça, le nettoyage des déchets sur les trottoirs, le ramassage des poubelles, etc. C'est ultra local. L'eau, c'est ultra local. Ils vont s'occuper des plus petites écoles pour les petits enfants les plus locales, c'est-à-dire la maternelle et l'école élémentaire. Ensuite, tu as le conseil départemental. Le conseil départemental, historiquement, alors les métropoles, ce sont des rassemblements de mairies. Je rentre pas plus dans le détail. Une métropole n'a pas plus de compétences que les mairies mettent ensemble, pour faire simple. Je reste simple. Hein. Mais tu as raison, oui, les métropoles, les associations de communes diverses et variées, les EPCI, etc., ce sont sur des compétences municipales. Le niveau départemental a une spécificité, c'est l'action sociale. Les départements s'occupent de l'action sociale. Les conseils départementaux, pardon, s'occupent de l'action sociale. Action sociale, ça veut dire qu'ils s'occupent, par exemple, en gros, de distribuer les allocations. Pour faire très simple, RSA, allocation handicapée, allocation vieillesse. Et ils s'occupent de toutes les politiques pour ces publics-là. Politique du handicap, c'est pour ça qu'on va à la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. La maison départementale. Les personnes âgées qui sont allocataires de l'association de l'allocation pour les personnes âgées, l'APA, c'est au niveau du département, le RSA, etc., etc., etc. Ok? Donc ça, c'est le département qui a une spécificité sur l'action sociale. Il s'occupe aussi des collèges. Et quand je dis il s'occupe des collèges, ça veut pas dire qu'il s'occupe là aussi, c'est une question de compétence. Il s'occupe pas des programmes scolaires dans les classes de collège. Ça, c'est l'éducation nationale qui s'en occupe. C'est le ministère, c'est l'État. Il s'occupe de tout le reste. C'est-à-dire, il s'occupe du bâtiment, le collège, le construire, l'entretenir, le réparer, le machin. Il s'occupe de la sectorisation des petits enfants. Il s'occupe de beaucoup d'actions périscolaires, etc., dans les collèges. Okay? Et ensuite, tu as le niveau régional. Et le régional s'occupe lui aussi, il a une spécificité, donc ce n'est pas l'action sociale, il s'en occupe pas. Le conseil régional s'occupe du développement économique. Le but de la région, c'est le développement économique du territoire régional. Et donc c'est pourquoi il s'occupe des subventions aux entreprises, du soutien aux filières professionnelles, et il s'occupe aussi de la formation professionnelle et des lycées. Ça a du sens, c'est cohérent. Donc le conseil régional de Bretagne finance des formations pour former des marins-pêcheurs. Il est mieux placé que l'État pour savoir c'est quoi les métiers en rapport avec la pêche, parce que la Bretagne, il y a des poissons, tout ça, voilà. Et pareil pour toutes les régions de France qui ont une connaissance du tissu économique local et qui sont les mieux à même de gérer le développement économique local. C'est aussi pour ça d'ailleurs que les conseils régionaux s'occupent des transports. La politique des transports, les TER, les trucs comme ça, les intercités, les machins, c'est géré par le conseil régional parce qu'il est très bien à même de savoir. Où est-ce qu'il faut mettre le paquet pour développer économiquement les échanges, etc. machin. Si tu as gardé ça en tête, tu as la base. Tu as la base de la compréhension des collectivités territoriales. OK? La mairie s'occupe des trottoirs. C'est méchant de le dire comme ça, mais tu as l'idée. Le conseil départemental s'occupe de l'action sociale, le conseil régional s'occupe du développement économique. Si tu gardes ça en tête, t'as la base. Après, autour, c'est très intéressant, mais voilà. Les intercités, c'est l'État. Oui, les intercités, c'est l'État, pardon. Oui, non, je pensais au TER, transports express régionaux. Marlène Schiappa s'occupe de rien du tout. Dans le millefeuille, Marlène Schiappa, dans le millefeuille territorial, Marlène Schiappa, c'est la cerise au-dessus du millefeuille. Je vois EPCI dans le chat, c'est quoi? Un EPCI, c'est un établissement public de coopération intercommunale. C'est un mot extrêmement chiant pour désigner en fait une association de mairies. C'est aussi simple que ça. La coopération intercommunale, c'est quand plusieurs mairies se disent hey, « Eh, les gars, ça vous dirait qu'on bosse un peu ensemble? Parce qu'ensemble, on est un peu plus fort quand même. »« Ah ouais, t'as raison, Michel. Bon, bah viens, on crée un EPCI. » Voilà. Donc t'as 3, 4, 5 mairies du coin qui décident de dire « Eh, viens, on bosse ensemble. » Et qui se disent « Bah tiens, on va créer ensemble un établissement public de coopération pour gérer en commun. » C'est un peu une petite union européenne, en fait, au niveau ultra-local. Donc c'est comme ça qu'un EPCI va dire bon bah on va foutre le paquet pour construire je sais pas moi une piscine dans la mairie de machin parce qu'en fait ça va servir aux habitants de toutes les mairies autour. Donc toi tu auras une piscine, toi tu auras le centre de déchets, toi tu auras le centre de pour gérer la flotte et puis on va mettre en commun comme ça puis on va gérer ensemble. Donc t'es communauté de communes, communauté d'agglos, il y a plein de noms différents, hein. Alors si vraiment vous voulez vous masturber intellectuellement, il y a plusieurs types d'EPCI, il y a les EPCI à fiscalité propre, il y a la carte de l'intercommunalité qui a été arrêtée par la loi NOTRe. Tout ça est chiant à mourir. Mais très intéressant. Une communauté de communes, c'est un EPCI, absolument. Communauté de communes, c'est un EPCI à fiscalité propre. Voilà. C'est pas si chiant quand t'es dedans, c'est cool. Ah, mais c'est très très cool! Là, ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous expliquer hein, sur le fonctionnement territorial, etc., les compétences, c'est le B.A.-BA de la préparation des concours de la fonction publique au niveau local. Si vous voulez un jour devenir fonctionnaire territorial, déjà, n'hésitez pas. C'est un très beau métier. Vous devez apprendre ça. Je vous rassure, il y a des fiches de révision et tout. Vous pouvez faire des formations en ligne pour vous apprendre ça. Et vous apprenez ça un peu plus dans le détail, ce qui vous permet ensuite de passer les concours pour devenir attaché territorial et ensuite. Et ensuite, vous, voilà, vous ferez carrière dans la fonction publique locale, territoriale, pardon. C'est bien payé. Ça dépend du poste, ça dépend du grade, ça dépend de. Ça dépend de ce que tu fais. La question, c'est est-ce que c'est pas est-ce que c'est bien payé, c'est est-ce que tu t'éclates professionnellement au regard de ce que t'es payé? Ça dépend des attentes. Oui, ça dépend des attentes, ça dépend de plein de trucs, hein. J'arrive en cours de route, mais du coup, comment ils deviennent conseiller général ou préfet les fonctionnaires territoriaux? Alors, conseiller général, c'est une élection. Donc si tu veux devenir conseiller général quand t'es fonctionnaire, eh ben tu passes un concours. Non, pardon, tu passes une élection. Excuse-moi, je pensais à l'inverse. Tu passes une élection, il faut être élu par les gens. Voilà, félicitations. Et les préfets, pareil, les préfets c'est un concours, hein. Fonction publique préfectorale, le corps préfectoral, c'est un concours, hein. Pour être intégré préfet, chaque année il y a des promotions de préfet et tout. Pour être préfet, vaut mieux faire l'ENA. Je me permets de te suggérer de faire l'ENA. Préfet, c'est la très haute fonction publique. Et d'ailleurs, préfet, ce n'est pas de la fonction publique territoriale. Rapport à ce que je vous ai expliqué hier ou avant-hier sur la décentralisation et la déconcentration, les préfets, c'est la fonction publique d'État. Les préfets ne dépendent pas des collectivités territoriales. Au contraire, ils sont nommés par Paris, pour aller dans les territoires, s'engueuler avec les collectivités territoriales. Mais non, pas s'engueuler, oh là là, mener des projets en commun au service du territoire et des citoyens. On peut dire fonction publique nationale ou ça se dit pas du tout? Non, on dit fonction publique d'État. Voilà. Il y a trois fonctions publiques en France. Fonction publique d'État, t'as les enseignants, t'as les militaires, t'as les préfets, t'as la police nationale. T'as plein de trucs. Oui. T'as la fonction publique territoriale, Attachés territoriaux, directeurs d'administration territoriale, catégorie A, B, C, etc. Et tu as la fonction publique hospitalière, dans les hôpitaux. Là, pareil, tu as A, B, C, machin et tout. Voilà, c'est trois fonctions publiques en France. Les préfets valident ou invalident les délibérations territoriales. Oui, sous le contrôle du juge administratif quand même. Faudrait pas faire passer le préfet pour un espèce de dictateur local qui fait ce qu'il veut. Non, il fait pas ce qu'il veut. Il y a le juge administratif derrière qui regarde ce que fait le préfet, comme ça, qui fait. Dis donc, monsieur le préfet, là, l'arrêté de d'interdiction que vous avez pris sur la manifestation, machin, là. C'est pas bon, hein? Vous l'avez pas assez justifié là. Maintenant, vous avez porté atteinte au droit de manifestation. Ah bah du coup, votre arrêté d'interdiction, vous allez vous le rouler en boule et vous te foutre dans le cul, monsieur le préfet. Hein. Ah bah moi, j'autorise la manifestation. Dans le renfoncement, dans le renflement. Pourquoi les sénateurs sont élus indirectement? Il y a une histoire à ce sujet. Oui, il y a une histoire. Il y a une histoire du Sénat dans la construction de la République. La République en France, la démocratie parlementaire en France, c'est 250 ans d'histoire avec une affirmation particulière à partir de la deuxième moitié du 19e siècle et la construction du parlementarisme surtout. Mais oui, le Sénat a beaucoup changé en fonction des régimes politiques, en fonction de l'Empire, des restaurations, etc. Machin. Bon, le bicamérisme n'a jamais été vraiment remis en question. Le bicamérisme, c'est le fait qu'il y ait deux chambres. Et les sénateurs, sous la Ve République, sont devenus les représentants des territoires. Ce qui est devenu particulièrement intéressant au moment des lois de décentralisation, justement, à partir des débuts des années 80, puisque les élus locaux ont commencé à avoir de plus en plus de pouvoir au niveau local, avec des problématiques locales spécifiques, avec la déclinaison des politiques publiques nationales au niveau local qui est devenue de plus en plus importante. Merci Alex pour ton prime. Et donc, les sénateurs sont élus indirectement parce qu'ils sont élus par les élus locaux pour justement être les représentants des élus locaux, être les représentants des territoires. L'autre raison pour laquelle les sénateurs sont élus indirectement, c'est pour justement faire la différence avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est le cœur battant de la démocratie parlementaire directe puisqu'ils sont élus par le peuple directement, le suffrage universel direct. C'est l'Assemblée nationale qui est la dépositaire de la souveraineté nationale, pas le Sénat. Le Sénat, de son côté, a aussi un rôle. A aussi pour but de ne pas être soumis aux aléas politiques. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, elle est élue tous les 5 ans et elle est renouvelée intégralement tous les 5 ans, ce qui fait que l'Assemblée nationale vit au rythme des alternances politiques. L'Assemblée nationale suit l'élection du président de la République et quand il y a une alternance, c'est normal, les électeurs vont pas changer d'avis en 3 semaines, l'Assemblée nationale change de couleur politique au fur et à mesure de ce que veut le peuple. Et ça peut aller assez vite. Le Sénat, de son côté, on a fait exprès de le construire pour qu'il soit moins sujet justement à des changements brutaux. C'est un peu une chambre du temps long. Le Sénat reste indépendant du pouvoir et de l'élection du président de la République parce que les sénateurs ne doivent rien au président de la République, ne doivent rien aux élections législatives et présidentielles et justement gardent une indépendance du fait qu'il n'est pas soumis à ces aléas politiques. Et donc le Sénat, il est pas, par exemple, très bon exemple, le Sénat, en plus d'être élu indirectement par les élus locaux, le Sénat, il est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Ce qui fait que tu peux pas changer tout le Sénat en claquant des doigts. Ça marche pas, ça. Le Sénat, c'est plus lent. Et c'est volontaire que ce soit plus lent. En échange de quoi? Le Sénat ne peut pas avoir le dernier mot face à, en cas de conflit avec l'Assemblée nationale. Parce que c'est bien l'Assemblée nationale qui est dépositaire de la souveraineté. De la souveraineté populaire. Donc, le Sénat, il peut voter des amendements, il peut proposer des changements, des trucs, etc. Mais au bout du bout du bout, si vraiment il y a engueulade entre les deux, c'est bien l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Je croyais que c'était un tiers. je croyais que c'était un tiers. Non, le Sénat, ça a changé. Avant, c'était effectivement, les sénateurs étaient élus pour 9 ans et les élections sénatoriales renouvelaient par tiers tous les 3 ans, le Sénat. Alors que maintenant, c'est un mandat plus court, donc de 6 ans, avec renouvellement par moitié tous les 3 ans. Je vois partout le terme recours pour excès de pouvoir, qu'est-ce que ça signifie? Le recours pour excès de pouvoir, c'est typiquement le genre de truc que tu vas pouvoir faire devant un tribunal administratif. Tu vas faire un recours, en fait tu portes plainte, on va dire ça comme ça, parce que tu estimes qu'une autorité publique a fait un excès de pouvoir. Tu estimes qu'une autorité s'est permise de t'imposer un truc au mépris de son propre pouvoir. Donc il a excédé son pouvoir. Donc tu fais un recours pour excès de pouvoir en disant au juge, monsieur le juge, moi je suis pas d'accord. Le préfet a pris une décision me concernant. J'estime qu'il a excédé son pouvoir. Il n'avait pas à prendre cette décision. Ça ne relevait pas sa compétence, etc. C'est ça un excès de pouvoir, un recours pour excès de pouvoir. Et le juge administratif, c'est son rôle. Il va regarder. Il va regarder. Et puis parfois, il va dire, ouais, non, là, effectivement, il n'avait pas le droit de prendre cette décision-là. Et à d'autres moments, il va dire, ah, bah non, monsieur, désolé, mais si, si, il avait parfaitement le droit de prendre cette décision-là. C'est un ticket à l'admin pour se plaindre de la modération. C'est très bien dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un ticket à l'admin pour se plaindre de la modération. Qui va au tribunal administratif? Les gens lambda contre l'État. Bien sûr. Bah bien sûr, tous les jours. Tous les jours. Les gens lambda se plaignent de l'administration auprès des tribunaux administratifs en disant mais l'administration m'a refusé un permis de construire, par exemple. Je suis pas d'accord avec la décision de rejet de mon permis de construire. Je porte plainte. Enfin, voilà, je vais au tribunal administratif et je demande à ce que le juge casse la décision de la mairie qui m'a refusé mon permis de construire. Voilà. Ça arrive absolument tous les jours. J'avais cru comprendre que les Champs-Élysées étaient cogérés par la mairie de Paris et la préfecture de police. Est-ce que c'est vrai? Oui, pour faire simple, là aussi pour essayer de faire simple, dites-vous que Paris, Lyon et Marseille sont les trois plus grandes villes de France. Elles sont tellement grandes qu'elles sont cogérées par l'État et par la mairie. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Jean, est-ce que c'est grave si on a étudié pas grand-chose en rapport avec la fonction publique, mais qu'on veut s'y réorienter? Mais non, au contraire! Non, 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 non! C'est pas grave, vous pouvez totalement vous former. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est le béaba d'une formation, de ce qu'on appelle la préparation au concours administratif. Utilisez votre compte personnel de formation si vous voulez. Faites une formation en ligne pour préparer les concours administratifs et vous pouvez devenir fonctionnaire. Ça s'apprend, hein, c'est pas. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça s'apprend. Hein. En 6 mois, 1 an, vous pouvez très bien apprendre les bases du fonctionnement pour ensuite passer un concours administratif et vous pouvez devenir attaché territorial, vous pouvez devenir policier, vous pouvez devenir pompier, vous pouvez devenir. Allez-y, hein. Enfin, franchement, si c'est une réorientation professionnelle qui vous intéresse, devenez fonctionnaire. Hein. Il y a des très beaux postes dans la fonction publique, vous pouvez vous éclater comme Jaja, vous pouvez vous faire chier aussi, ça dépend, puis il y a tout et rien dans la fonction publique. Non, franchement. Réorientez-vous, n'hésitez pas. Hein. Vous allez au CNFPT, là, le Centre National de Formation de la Fonction Publique Territoriale, vous verrez, préparation au concours, machin. Il y a même des prépas privés, ça existe. Si vous avez de l'argent à mettre, allez-y si vous voulez. Sinon, vous allez à la FNAC et vous achetez un bouquin de préparation au concours administratif. Voilà. Faut être sacrément diplômé. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. La fonction publique, il y a plein de postes différents. Hein. Alors effectivement, si vous voulez devenir préfet, si vous voulez devenir directeur d'administration centrale, directeur d'hôpital, diplomate, etc., ouais, là, va falloir. Là, c'est un niveau de formation qui est un peu vénère. C'est un peu vénère. Mais si vous voulez devenir fonctionnaire territorial à la mairie, c'est beaucoup plus accessible. Il y a différents niveaux hein, dans la fonction publique. Il y a différents grades, il y a différents postes, il y a différentes. Faut avoir au moins un bac quand même. Je sais, ça dépend des postes pour lesquels tu postules, hein. Je suis à peu près sûr que quand tu vas postuler à la Légion étrangère, t'as pas besoin d'avoir le bac. Tu vois, il y a des métiers dans lesquels t'es pas obligé d'avoir le bac, hein, même dans la fonction publique, hein. Bon, après, tu deviens bidasse à la Légion étrangère, mais bon, si c'est ton truc. Voilà. Et y a pas mal de trucs de catégorie C, c'est sans diplôme, oui, bien sûr. Policier, au plus bas échelon, je suis pas sûr que t'aies besoin d'avoir le bac, hein. Si, peut-être, je sais pas. Catégorie C, ça doit être niveau brevet, ouais, ça doit être niveau brevet, ouais. Puis bon, tu peux passer des équivalences aussi, hein. Ouais, gardien de la paix, c'est catégorie B, donc il faut le bac. Oui, t'as raison. Oui, t'as raison, gardien de la paix, il faut le bac, ouais. Les militaires sont pas des fonctionnaires. Ils sont pas à proprement parler des fonctionnaires, ce sont des militaires, c'est même pour ça qu'on les appelle militaires. Mais ils travaillent pour l'État quand même, hein. C'est pour ça que je fais un amalgame entre la fonction publique et l'armée. Il n'y a pas de catégorie pour bac plus 5. Bah si, catégorie A. Tu peux être fonctionnaire de catégorie A. Catégorie A, ce sont les cadres de la fonction publique. On appelle ça les cadres de la fonction publique. Voilà. Donc tu peux être directeur général des services. Tu peux être directeur de bureau, chef de bureau, pardon. Tu peux être plein de trucs, hein. Ça veut dire qu'on peut être au plus haut sommet de l'État comme président sans avoir le bac, alors que gardien de la paix, il faut le bac. Absolument. Parce que le président de la République n'est pas... il passe pas un concours. Il n'y a pas de concours pour devenir président de la République, il y a une élection. Et l'élection, c'est la décision souveraine du peuple. Le peuple peut tout à fait choisir, s'il le veut, car telle est sa volonté de souverain, d'élire un mec qui n'a pas le bac. Il fait ce qu'il veut, le peuple, hein. C'est pas un agent public. C'est un élu. Comme député, tout pareil. Tout pareil. Les députés sont des élus, sont pas des fonctionnaires. Ils ont pas passé de concours pour être élus, il n'y a pas de concours, hein. Il n'y a pas de contrôle de connaissances. Il y a la volonté des électeurs. Autre sujet, pourquoi l'opposition n'a pas demandé un vote sur la recevabilité de l'amendement de réintroduction de l'abrogation de la réforme des retraites? Parce qu'il n'y a pas de vote. On ne vote pas la recevabilité des amendements. La procédure ne prévoit pas de vote. C'est une compétence directe du président de la commission des finances pour les amendements et les propositions de loi en première lecture et de la présidente de l'Assemblée nationale, du bureau ou de la présidence de l'Assemblée nationale pour les amendements en séance publique. Rentrer dans la fonction publique sans piston ou relation, c'est possible. C'est un concours. Encore une fois, c'est un concours, hein. Je sais pas, je sais. Un piston, ça n'a jamais aidé à passer un concours, hein. Si tu sais pas tenir un stylo, tu passeras pas le concours. Voilà. D'ailleurs, alors si vous le savez pas, une fois que vous avez votre. Une fois que vous rentrez dans la fonction publique. Vous avez votre grade. Félicitations. Et ensuite, ça ne veut pas dire que vous avez un boulot, hein. Non. Vous êtes sur ce qu'on appelle des listes d'aptitudes. Et là, vous devez postuler sur des postes. Et ça fonctionne exactement comme dans le privé, hein. Il y a une ANPE. Alors, ANPE, ça n'existe plus, pardon. Il y a un pôle emploi des fonctionnaires, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a un pôle emploi des fonctionnaires. T'as plusieurs sites internet d'ailleurs de fonctionnaires comme ça qui t'informent des postes qui sont ouverts. Et comment tu fais? Bah, tu fais comme dans le privé, hein, t'envoies un CV, tu postules sur un poste. C'est le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT. Regarde. Regarde, je vais te montrer le pôle emploi des fonctionnaires, CNFPT. Les offres d'emploi. Le portail de l'emploi public, c'est emploi-territorial.fr. Voilà. Offres d'emploi en cours. Il y a 28 000 offres d'emploi disponibles pour tous les grades. Ça, c'est la filière technique. On recrute beaucoup de techniciens. Ça, c'est la filière administrative. On recrute beaucoup d'administratifs. T'as dans l'animation, sur le périscolaire, des trucs comme ça. Ça, c'est quoi? La culture? Pour bosser à la DRAC. Ça, c'est quoi? Filière technique. Ben, je croyais que c'était ça, la filière technique. Ah, il y a plusieurs filières techniques. Bon. Filière sécurité? Filière sport? Donc voilà. Donc mettons par exemple que je veux bosser dans le Puy-de-Dôme. J'adore le Puy-de-Dôme. 281 postes. Qu'est-ce qu'ils ont comme poste? Affaires administratives. Voilà. Bah, ils recrutent une secrétaire ou un secrétaire de mairie dans la commune de Saint-Vincent. La commune de Saint-Vincent, sachez-le, dans le Puy-de-Dôme, recrute un ou une secrétaire de mairie. C'est un emploi permanent. L'emploi est vacant actuellement. Il y a un seul poste. C'est une charmante bourgade, hein, au demeurant. Voilà, au sud de Clermont-Ferrand. C'est ouvert aux contractuels, parce qu'à mon avis, ils doivent galérer à recruter. Donc, si vous n'êtes pas fonctionnaire, vous pouvez postuler. Puis voilà. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Assistant administratif, assistant de gestion, agent d'accueil, bon, secrétaire de mairie, emploi administratif, agence postale, adjoint administratif, dans la commune de Luzila, charmante bourgade elle aussi, toujours dans le Puy-de-Dôme, hein, au nord-est de Clermont-Ferrand, citoyenneté, population, affaires administratives, assistant de gestion administrative, mission. Acte administratif et gestion courante dans le domaine de l'activité de la structure. Mais c'est quoi comme structure? C'est à la mairie ou c'est dans une. Ou c'est dans un équipement municipal? Bon, bah voilà. C'est un temps complet. Voilà quoi. Vous pouvez déposer votre candidature. Donc voilà, donc vous voyez le pôle emploi de la fonction publique territoriale. Et vous devez avoir le même pour l'État, et vous devez avoir le même pour la fonction publique hospitalière. Si vous êtes infirmier ou infirmière et que vous avez des compétences particulières, il y a peut-être un hôpital qui recrute en ce moment en urgence quelqu'un qui sait faire dans votre spécialité. Pour les profs, c'est différent. Pour les profs, c'est différent. Oui et non, parce que les profs, c'est sur des listes de. Enfin, les ouais, non, les profs, tu choisis pas exactement où tu vas. Enfin, dans ton académie, tu peux demander des mutations pour déménager et bouger. Mais ensuite, t'as effectivement les droits de mutation. Effectivement, c'est spécifique dans l'éducation nationale. Oui, non, encore une fois, après, il y a des fonctions publiques spécifiques, hein. Il y a des fonctions publiques spécifiques dans lesquelles ils ont leur propre site internet, l'école, la police, la justice aussi, je suppose. Les fameux mouvements. Ah, les mouvements dans les Ducnat. Les mouvements. Je veux bouger sur la côte d'Azur pour rejoindre mon mec. Ah, désolé ma chérie, t'es pas la seule. Faut que tu fasses une demande de mutation. Demande de mouvement. Et à mon avis, tu vas pas être prioritaire sur les mouvements dans le sud. Et c'est pour ça qu'il y a un système de points en interne à l'éducation nationale. Il y a un système de points. Le rapprochement de conjoint est prioritaire. Alors oui, pour être précis, dans l'éducation nationale, tu peux avoir des priorités sur les listes de mouvements si c'est pour rejoindre un conjoint ou une conjointe, notamment s'il y a un enfant. Et vaut mieux être paxé ou marié que rien du tout. C'est plus facile. Du coup, c'est pour ça. Qu'il y a des groupes Facebook de profs qui font des pacs entre profs qui ne se connaissent pas pour faciliter les mouvements. Je rigole pas, hein, c'est pas une légende, hein, les profs qui se paxent. Ou alors c'est au sein du syndicat que tu fais ça. Tu rejoins un syndicat de profs et tu demandes, il n'y aurait pas un camarade ou une camarade qui habite sur la côte d'Azur? Je voudrais me paxer, s'il vous plaît, vite. Pour obtenir ma mutation pour le mouvement. Ah non, c'est réel, hein. C'est complètement réel. C'est très rare, mais oui. Oui, c'est pas si courant que ça, mais ça existe, ça existe. Ça existe. Ils vérifient pas la vie commune? Non. Non, les fonctionnaires de l'éducation nationale ont autre chose à foutre que de vérifier que les profs baissent bien entre eux avant de demander leur mutation. Au demeurant, les fonctionnaires d'éducation nationale savent très bien que les profs baissent entre eux. Ça, c'est pas une légende, hein. Pézodrome, les profs. Mais vous avez bien raison. Chers amis de la fonction publique, hein, les profs de sport et les profs d'art plastique, on vous connaît, hein? Ouais. Ma sœur est prof d'art plastique. Non, non, mais très bien. Je lui souhaite le meilleur, hein. Et s'il s'avère que le prof de sport est un beau surfeur un peu bodybuildé, bon, bah voilà, qu'est-ce que je te dise? Il y a un moment, les choses de l'amour, hein. J'avais croisé mon ex-prof de physique et mon autre ex-prof de physique dans le même quartier. J'avais dit à la meuf que c'était marrant qu'ils soient dans le même quartier. Elle avait répondu, bah, c'est le père de mes enfants. Ils ont eu quatre gosses dans les années qui ont suivi mon bac. Non, mais ça me rappelle au lycée, quand on était des petits cons. Alors, je sais pas vous, moi j'étais un petit con au lycée. On avait repéré une fois que le prof, je crois que c'est le prof d'éco, il avait fait un sourire dans le couloir à un nouveau prof qui venait d'arriver dans le lycée, qui était un prof remplaçant de je sais plus quoi, d'anglais, je crois. Et nous, les petits cons, on avait dit à notre prof, eh monsieur, il est sympa le nouveau prof d'anglais. Eh monsieur, eh, vous le trouvez mignon, hein? Eh monsieur, c'est vrai qu'il est mignon, hein? Le prof qui était tout rouge, qui était en mode Non mais foutez-moi la paix, pourquoi vous me demandez ça? Ça vous regarde? Non non non, mais on dit juste ça, monsieur, hein. On dit juste que vous lui avez dit bonjour avec un sourire un peu appuyé, c'est tout. C'est vraiment les petits cons, les gros relous. Là, c'est insupportable. Bon, l'histoire ne sait pas, l'histoire ne dit pas s'il l'a pécho un jour ou pas. Nous, on était là pour aider, hein. Eh, monsieur. Eh, monsieur, si on peut aider, vous nous dites, hein. Eh, monsieur. Oh, les petits cons. Qu'est-ce qu'on est cons au lycée? Ah, ouais. Ah non, on était pénible, nous, hein. Ça peut valoir une sanction disciplinaire au prof. De quoi? De baiser avec un collègue? Ça peut lui valoir éventuellement un claquage musculaire. Ou des marques rouges sur la peau des fesses. Mais bon. C'est tout ce que je lui souhaite. Mais ça, on n'ira pas vérifier. Ah non, il n'y a pas assez de moyens dans l'éducation nationale. Ça n'existe pas, ça, dans mon lycée, il y avait plusieurs profs mariés ensemble carrément. Ah bah ça, alors ça, pardon, mais les profs mariés à des profs, c'est vu et revu, on connaît, hein. Non, la question c'est est-ce que les profs mariés ensemble ne se faisait pas quelques infidélités avec d'autres collègues? Non mais bref, si vous connaissez pas de profs, ils vous raconteront. Si, bon bref, un jour si vous croisez des profs, ils vous raconteront à quel point c'est Dallas, les histoires de salles de profs. voilà, c'est amour, gloire et beauté. Dans quel boulot il n'y a pas de gens mariés ensemble? Oui, en plus c'est vrai. Dans quel boulot il n'y a pas de gens mariés ensemble? C'est normal. Je suis prof, je plus sois. Ah bah attends. Les soirées de rentrée, les soirées de fin d'année des profs. J'ai jamais vu autant d'alcool, autant de drogue et autant de sexe que dans les soirées de profs après le bac, hein. Eh, c'est normal, hein. Eh, faut bien se féliciter d'avoir formé la génération future des citoyens de la République. Je suis prof, t'es en dessous de la réalité. Je sais bien. Alors, il y a les soirées médecine aussi. Non, mais ça, c'est pas pareil. Ça, c'est les soirées étudiantes. Non, mais ça compte pas. Non, mais alors, oui, alors forcément, si vous rajoutez les soirées étudiantes, oui, non, mais là, c'est trop facile. Les soirées étudiantes, les soirées médecine, les soirées ingé. Oui, non, mais oui, non, mais d'accord. Non, non, mais non, là, je parle de professionnel. Enfin, le professionnel diplômé est payé par l'État. Imagine les soirées étudiants de prof. Ah, dans les IUFM. Là, on parle du travail. Bon, pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de ça alors que je suis censé faire une FAQ politique? Si vous voulez poser des questions sur la politique, son fonctionnement, comment on baisse dans la fonction... pardon, comment on rentre dans la fonction publique? Etc. N'hésitez pas. Moi, je suis prof des écoles et c'est pas du tout ça l'ambiance. Ah, c'est parce que t'es pas dans la bonne école. Comment on rentre dans ses collègues de la fonction publique? Qu'est-ce que ça implique d'être haut fonctionnaire? La haute fonction publique, ça ne désigne finalement rien d'autre que le sommet de la hiérarchie de la fonction publique. Donc la haute fonction publique, ce sont les fonctionnaires qui ont les postes les postes à plus haute responsabilité de la fonction publique. Donc c'est là qu'on va trouver les préfets, par exemple, les directeurs d'administration centrale. Bah, par exemple, tiens, vous vous souvenez, le directeur général de la santé, le DGS, pendant le Covid, on voyait sa tronche partout, etc. Bah, lui, c'est un haut fonctionnaire, c'est même le plus haut fonctionnaire. Du ministère de la Santé. Et tu as ça partout, la haute fonction publique, les hauts fonctionnaires, ce sont les plus hauts dirigeants de la fonction publique. Voilà, c'est tout. Donc directeur d'administration centrale, diplomate, préfet, voilà. Est-ce qu'il faut un diplôme pour devenir fonctionnaire? C'est une vraie question. Fonctionnaire, c'est un statut, c'est pas un niveau. Donc il y a plein de fonctionnaires différents. Tu peux être fonctionnaire si tu n'as que le brevet. C'est les postes de catégorie C notamment. Par contre, pour certains fonctionnaires, oui, il faut un diplôme. Et puis il y a même des concours particulièrement difficiles. Quel concours il faut faire pour bosser en consulat ou en ambassade? Ça dépend de ton poste, en consulat ou en ambassade. Ça dépend de ton poste. Mais si tu veux être diplomate, il faut passer le concours du Quai d'Orsay. Donc c'est le concours de la fonction publique spécifique du Quai d'Orsay. Les concours sont accessibles selon le niveau. Oui, c'est ça. En fonction de ton niveau de diplôme, tu ne peux pas postuler à tous les concours. Pourquoi beaucoup de politiques étaient des hauts fonctionnaires? Bah, parce que parce que c'est pas absurde. La haute fonction publique, ça forme des gens qui sont habilités à diriger les affaires publiques. C'est pas étonnant que certains d'entre eux soient rentrés dans la politique pour diriger les affaires publiques d'un point de vue politique. C'est pas absurde. Est-ce qu'on peut postuler en candidat libre? Bien sûr, on peut postuler en candidat libre, bien sûr. Il y a même des postes qui sont ouverts au tour extérieur, comme on dit, pour justement diversifier, parce qu'il y a un enjeu de diversification de la fonction publique, de ses profils, etc., de ses agents. Donc si vous bossez dans le privé et que vous voulez rentrer dans la fonction publique, vous serez les bienvenus, et vous pouvez postuler au concours en candidat libre, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a un nombre maximal de candidatures? Je sais pas. Ça dépend si concours interne ou externe. Oui, effectivement, tu as raison, je rentre pas dans le détail, mais il y a même des concours qui sont réservés aux gens qui viennent de l'extérieur de la fonction publique pour y rentrer. Ça s'appelle ça les concours externes. Je rentre pas dans le détail, mais ouais. Ouais. T'as fait ces concours, toi? Non, non, moi j'ai jamais passé les concours de la fonction publique. Non, moi j'ai toujours été contractuel. Toujours été contractuel de la fonction publique, j'ai jamais été fonctionnaire. Quel lien avec ce qu'on appelle les grands corps? Ce qu'on appelle les grands corps de la fonction publique, ce sont les corps de hauts fonctionnaires dans lesquels tu rentrais, dans lesquels tu faisais toute ta carrière en sortie de l'ENA. Alors j'en parle au passé parce que ça a été réformé, ça aussi en partie. Le but, c'est justement de faire des mouvements au sein même de la fonction publique. Donc tu avais le corps du Conseil d'État, le corps de l'IGF, de l'inspection des finances. Le Quai d'Orsay. Et donc tu rentrais en début de carrière dans ces corps-là et en fait tu faisais toute ta carrière dans le corps avec des progressions de carrière, etc. J'ai pas compris. Pour un grade A par exemple, il faut un bac plus 5, peu importe lequel. Oui, mais oui, mais pour passer le concours. Pour t'inscrire au concours, oui. Mais après, le concours, il va être vachement dur. Si t'as bac plus 5 en mathématiques et que tu postules sur un truc où on va te demander des connaissances en droit public, t'as intérêt à faire une prépa avant quand même. Et c'est bac plus 3 catégorie A, oui, t'as raison. Faut aussi réussir le concours derrière, quoi. Bon courage, hein. L'avenir de Baxit après la saison. Merci d'ailleurs pour vos dons, hein. Vous avez vu qu'on a la barre de dons. Bah écoute, on est en train d'essayer de travailler à faire une saison 3 de Baxit. Ce serait chouette. On vous tiendra au courant plus tard, mais on aimerait bien qu'il y ait une saison 3 de Baxit, ce serait chouette. C'est quoi la différence entre fonctionnaire et contractuel? Un fonctionnaire, c'est une personne qui est investie d'une fonction publique, donc qui a le statut de fonctionnaire. Un contractuel, c'est une personne qui n'a pas le statut de fonctionnaire, mais qui va temporairement travailler pour l'État, dans le cadre d'un contrat de travail. Voilà. C'est fini cette année, Baxit? Non! Il reste encore deux émissions, chers amis de Baxit. Est-ce que c'est connu du grand public, Baxit? C'est connu du meilleur public. Pas trop stressant de dépendre des dons pour Baxit? Si. Mais l'enjeu en vaut la chandelle. Disons que c'est un stress que j'accepte. C'est demain le truc avec la Banque de France? Ouais, c'est demain. Le jeu, pas l'enjeu. Ah ouais, peut-être. Le fait de devenir fonctionnaire te lie avec l'État avec qui tu vas devoir faire ta carrière avec une grille évolutive de grade qui a été revue à la baisse. Personnellement, je trouve que ça fait secte. Alors, si ça peut te rassurer, tu peux quitter la fonction publique quand tu veux. Ce n'est pas une secte, la fonction publique. Tu as le droit de la quitter. Il y en a beaucoup qui la quittent. Beaucoup. C'est quoi les avantages d'être fonctionnaire? Faut que tu demandes aux fonctionnaires. Chacun voit midi à sa porte. Travailler pour l'intérêt général. Je sais pas. C'est comme si tu me demandais c'est quoi l'intérêt d'être pompier, d'être policier, d'être infirmière, d'être enseignant. Bah, je sais pas, il y a des gens à qui ça plaît beaucoup, quoi. Puis ça a ses avantages, ses inconvénients. T'as un emploi stable et sécurisant. T'as des congés payés. Être un assisté. De quoi, la fonction publique? Tire à dire ça aux profs. Et aux infirmières. Et on manque de profs. Oui, en plus, on manque de profs. Tu peux te faire virer à un certain niveau. Ah, tu peux te faire virer de la fonction publique, oui, ça je te le confirme. Oui, tu peux te faire virer. Oui, les sections disciplinaires et tout. Ah, oui. Tu penses pas que ce serait intéressant d'avoir des chroniqueurs avec des idées politiques plus diversifiées pendant les émissions Baxit? Ah, si, toujours. Toujours. C'est pour ça qu'il y en a des nouveaux. Vous en avez découvert des nouveaux et des nouvelles cette année. Et ça continuera, bien sûr. Pourquoi on parle de sécurité de l'emploi dans le public si on peut se faire virer? Tu peux te faire virer pour faute. Tu peux te faire virer si tu fais des conneries. Mais tu peux pas te faire virer pour des raisons économiques. Tu peux pas te faire virer, le statut de fonctionnaire est un statut assez protecteur. Tu peux pas tabasser tes collègues non plus. Ah non. Quel niveau de faute est accepté? Bah, aucune faute n'est acceptée. Après, il y a des sanctions disciplinaires. Comment ils font alors quand ils décident de supprimer des profs ou des infirmiers ou des infirmières? Alors, je vous rappelle qu'on parle de suppression de postes. On ne supprime pas les gens. Il n'y a pas de peloton d'exécution dans lequel on tue des personnes. On supprime des postes, c'est-à-dire qu'on réduit le nombre de postes ouverts. Sais, c'est comme les gens qui disent faudrait supprimer les départements. C'est-à-dire avec du napalm? C'est un peu raide quand même. Non. Faudrait supprimer éventuellement les conseils départementaux. On va pas supprimer les départements. Non, personne va supprimer. Non, non, calmez-vous. Voilà. On ne supprime pas de fonctionnaires, on supprime éventuellement des postes de fonctionnaires. Ou on ouvre des postes de fonctionnaires. C'est comme ça qu'on gère. Oui, mais il y a bien des gens qui occupent ces postes, s'ils ne peuvent pas les virer, ils font comment? Ils attendent juste qu'ils partent à la retraite. Ouais. C'est le non-remplacement. Tu fais des non-remplacements de postes. Un poste qui est supprimé, en principe, tu vas le remplacer. Enfin, pardon, une personne qui part à la retraite, tu remplaces cette personne par une nouvelle personne, sauf si tu décides qu'à l'occasion de son départ à la retraite, son poste ne sera pas remplacé. Donc tu réduis les effectifs de l'équipe. Mais les entreprises font ça aussi, hein. Non-remplacement des départs à la retraite. Voilà. Vu qu'il y a des départs et des entrées tous les ans dans la fonction publique, c'est normal. Il y a des concours d'entrée avec des petits jeunes qui veulent rentrer. Il y a des sorties avec les décès, les démissions, les départs à la retraite. Et bah, tu choisis si tu ouvres ou si tu fermes des postes, si tu ouvres ou si tu fermes les robinets, quoi. En fait, c'est aussi simple que ça. Si un fonctionnaire est recruté mais incompétent, on fait comment? Eh bien, les fonctionnaires, ils ont des supérieurs hiérarchiques, ils ont des notations, ils ont des progressions de carrière, ils ont. Les fonctionnaires, ils ont des patrons, hein. Ils peuvent être rétrogradés, ils peuvent être mutés, ils peuvent être changés, ils peuvent n'avoir aucun poste à force de faire de la merde à chaque fois partout où ils passent. Il y a une période d'essai d'un an avant d'être titularisé. Ça, c'est au moment de la titularisation, ouais. Ouais. Si les incompétents sont potes avec l'inspecteur du coin, c'est mort. Ah bah, dans le privé, c'est pareil, hein. Eh, les gens qui bossent dans le privé, me faites pas croire que tout le monde dans votre entreprise est ultra compétente, hein. Hein? Les gros cons qui restent en poste, on les connaît, hein? On a les mêmes placards que dans la fonction publique. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, enfin, c'est. J'admets ne pas être le plus compétent de l'entreprise. Je bosse dans le privé et tout le monde est compétent dans ma boîte, je suis tout seul. Ah bah moi c'est pareil, hein. Sur Backseat, que des numéros 1. Tu dis ça parce que t'as déjà été fonctionnaire. J'ai jamais été fonctionnaire. Non. Tu es aussi le moins compétent du coup. Ah, c'est peut-être ça? C'est peut-être pour ça? C'est moi l'incompétent dans ma boîte. Ouais, c'est vrai. Je mérite une sanction disciplinaire. Ça fait réfléchir. On est tous l'incompétent de quelqu'un d'autre. Oui. Certains plus que d'autres. C'est à ça que servent les machines à café. À débriefer. Si fonctionnaire, c'est rassurant, du coup les contractuels, c'est précaire. Oui, bien sûr, les contractuels de la fonction publique, c'est une situation précaire. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les contractuels de la fonction publique réclament souvent ce qu'on appelle la titularisation. Ce qu'on appelle la titularisation dans la fonction publique, c'est le fait de passer de contractuel à titulaire. Titulaire de la fonction publique, c'est-à-dire fonctionnaire. Non plus contractuel, mais fonctionnaire. C'est ça qu'on appelle la titularisation. Donc oui, bien sûr, les contractuels de la fonction publique. Par contre, dans l'enseignement, on peut plus facilement travailler dans son coin que en contractuel qu'en titulaire. Oui. Non, mais c'est pour ça que ça peut être aussi un choix parfois d'être contractuel et pas titulaire. Parce que tu vas pas faire ça toute ta vie, parce que ça te convient, parce que c'est que quelques années, parce que. Voilà. Pour plein de raisons, tu peux préférer être contractuel que titulaire. Mais pour aussi de très bonnes raisons, tu peux préférer être titulaire que contractuel. Hein. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux, ça dépend de toi, de ta situation, de tes envies, etc. C'est quoi les compétences d'un préfet et quelle autonomie a-t-il? Un préfet, c'est un représentant de l'État dans un département, ou dans une région pour les préfets de région, bref. Il est en lien avec l'ensemble des acteurs. Locaux, que ce soit des collectivités territoriales, les autres représentants de l'État, l'hôpital, l'ARS, etc., par exemple, etc. Il a des pouvoirs de police, par exemple, donc il doit maintenir la sécurité, la salubrité, etc., dans le territoire. Il a des pouvoirs administratifs. Pouvoir administratif, pouvoir de police, pour gérer la vie de la cité et veiller au respect de la loi. Et il a aussi un pouvoir de contrôle des actes de l'administration des collectivités territoriales sous le contrôle du juge administratif. Voilà. Salut Jean, à quand la prochaine revue de presse? Je viens de voir le best-of et j'adore ce format. Les revues de presse, en général, on les fait le lundi. On essaye de les faire le lundi, les revues de presse. Bon, après, ça peut être le mercredi, ça peut arriver. Là, c'est une FAQ, mais ouais. L'état d'urgence, c'est pas principalement pour donner plus de pouvoir au préfet, justement. L'état d'urgence, ouais, alors l'état d'urgence, nous on a connu l'état d'urgence sanitaire dans un contexte national, donc c'est un peu particulier, mais il y a aussi des états d'urgence locaux où seuls les préfets de certaines régions ont des pouvoirs étendus, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr, l'état d'urgence c'est un très bon exemple. L'état d'urgence c'est un mode de fonctionnement de l'état où temporairement et dans une zone délimitée, un préfet a plus de pouvoir que d'habitude pour faire face à une urgence. Voilà, pour faire simple. Pour des raisons de sécurité, pour des raisons sanitaires, pour des raisons de catastrophes naturelles. Voilà. J'ai une question, est-ce que tu es hypé par Flight Simulator 2024? Oui, carrément. Les écoles privées sont libres de leur méthode d'éducation et de leur programme où il y a une réglementation. Alors il y a deux types d'écoles privées, il y a les écoles privées sous contrat et les écoles privées hors contrat. Le contrat, c'est le contrat qui lie l'école privée à l'éducation nationale. Dès lors qu'une école privée est sous contrat de l'éducation nationale, ça veut dire qu'elle n'est pas libre de ses programmes scolaires parce qu'elle applique les programmes de l'éducation nationale, que d'ailleurs ces programmes sont appliqués par des enseignants de l'éducation nationale, qui sont payés par l'éducation nationale, et l'école privée garde son autonomie dans son organisation et dans sa méthode pédagogique. Voilà. À peu près 70% du budget des écoles privées est payé par l'État. Les 30% restants sont à la charge des parents d'élèves. C'est pour ça que c'est privé. Et voilà. En revanche, les écoles privées hors contrat, elles ne sont pas obligées. Enfin, si, en fait, elles sont obligées de suivre les programmes de l'éducation nationale dans le cadre de l'obligation d'instruction. Mais surtout, 100% des profs est payé par les parents. Alors là, ça coûte très très cher. Quelle est la différence entre loi, décret et arrêté? La loi, c'est l'acte du Parlement. Le décret, c'est l'acte du gouvernement en application de la loi. Et l'arrêté, c'est une décision d'une administration sur une situation particulière. Tu peux répéter, s'il te plaît? La loi, c'est l'acte du Parlement. La loi intervient dans le domaine législatif, article 34 de la Constitution. La loi prévoit un certain nombre de règles qui doivent être respectées par les acteurs, privés, publics, tout ça. Le décret, c'est une décision gouvernementale qui vise à préciser les modalités d'application des lois par les administrations publiques, ou par tout le monde en réalité d'ailleurs, je dis ça, mais en fait, par tout le monde, hein, décret, voilà. Mais un décret, c'est inférieur à la loi. Donc un décret, c'est pour ça que je dis que le décret précise l'application de la loi, parce qu'un décret ne peut pas aller contre la loi, au contraire, il doit la préciser et l'expliquer. Et un arrêté, bah, c'est un arrêté, c'est une décision d'une autorité publique, par exemple un préfet, dans un cas précis. Un arrêté d'interdiction d'arrosage en période de canicule. Voilà. Et les circulaires? Une circulaire, c'est une consigne qu'un ministre donne à ses agents. Sur la manière de travailler. Mais c'est moins puissant qu'un décret. Enfin, après, ça dépend. Oh putain. Ça dépend des ministères. Parce qu'il y a des ministères qui ont un mode de fonctionnement extrêmement réglementaire. Par exemple, l'éducation nationale. Très très peu de. C'est pas vraiment la loi qui détermine beaucoup de choses. C'est vraiment une grosse machine très administrative. En vrai, c'est une interro surprise pour Jean. Non, 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 c'est une FAQ. J'essaie de vous aider à comprendre la politique. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment, justement. Donc, à l'éducation nationale, il y a beaucoup de circulaires, c'est normal. Il y a d'autres fonctions publiques, enfin, il y a d'autres ministères, pardon, dans lesquels tu as des niveaux d'autonomie des acteurs au niveau local qui sont beaucoup plus importants que dans l'éducation nationale. Donc, il y a moins de circulaires qui descendent d'en haut et qui expliquent à tout le monde comment ça va se passer. Est-ce qu'on peut contester juridiquement la loi, les arrêtés et les décrets? Oui, on peut contester juridiquement la loi en faisant une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel quand on estime que la loi est contraire à la Constitution. On peut également saisir les juridictions européennes, notamment la CEDH, si on estime qu'une loi porte atteinte à nos droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Les arrêtés, on peut les contester devant un tribunal administratif. Non, monsieur le préfet, je ne suis pas d'accord avec votre arrêté d'interdiction de machin. Je considère que vous avez outrepassé votre pouvoir et que vous contrevenez à la loi, donc je vais demander à un juge administratif. Machin. Et les décrets, on peut totalement contester les décrets devant le Conseil d'État en disant MDR, c'est quoi ce décret de merde qu'a pris le gouvernement? Il est contraire à la loi, je saisis le Conseil d'État et je demande à ce que le décret soit retoqué. Voilà. Pourquoi ils font pas ça les complotistes? Parce qu'ils en ont à peu près pas grand-chose à foutre. En plus, s'ils gagnaient devant la justice, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de complot. Ce serait quand même compliqué pour eux, vu qu'ils font tout leur beurre là-dessus. Pourquoi, dès lors qu'il se passe un fait grave, il y a toujours des politiques qui demandent une nouvelle loi alors qu'il y a déjà une loi qui couvre l'événement? Parce que les politiques peuvent estimer que la loi en vigueur n'est pas suffisante. La preuve en est, il y a eu un fait grave. Alors je sais pas de quoi tu parles parce que ça dépend de beaucoup de trucs, mais la politique, c'est normal. La politique se saisit de l'actualité pour dire regardez ce qui s'est passé, c'est grave. Si moi j'étais au pouvoir, je ferais une loi qui, je sais pas, régulerait mieux la lutte contre l'évasion fiscale, les jeux d'argent, j'en sais rien moi, la corruption, ce que tu veux. Le Conseil d'État, c'est quoi, des magistrats? Les conseillers d'État, pour faire simple, oui, ce sont des magistrats de l'ordre administratif. Ce sont les plus hauts magistrats de l'ordre administratif. Comment comprendre et retenir les rôles Sénat-Parlement? Comment t'expliquer ça facilement? Le Parlement, ce sont les représentants du peuple français qui ont pour rôle d'exercer en son nom son pouvoir souverain. Donc, ils ont trois rôles, trois missions. Faire la loi. La faire, ça veut dire l'écrire, la voter, la débattre, etc. La deuxième, c'est contrôler l'action du gouvernement. Et la troisième, c'est évaluer les politiques publiques pour éventuellement, du coup, les changer en votant de nouvelles lois. Voilà. Ça, c'est le rôle du Parlement. Le Parlement est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale et le Sénat ont très exactement le même rôle. Voilà. C'est volontaire. Il y a une redondance entre les deux chambres. Mais l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas composés exactement de la même manière. Et en cas de désaccord entre les deux chambres, il y en a une des deux qui a la possibilité d'avoir le dernier mot sur l'autre. En l'occurrence, c'est l'Assemblée nationale qui a la possibilité d'avoir le dernier mot sur le Sénat. Mais les deux travaillent ensemble et essayent de se mettre d'accord. Voilà. Quel est l'intérêt d'avoir deux chambres? Ça permet d'éviter la concentration des pouvoirs dans les mains d'une seule chambre. Pour les mêmes raisons qu'on a besoin d'équilibrer les pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, Montesquieu, tout ça, vous vous souvenez, on a aussi besoin de séparer les pouvoirs législatifs et de ne pas le concentrer entre les mains d'une seule chambre. Sinon, bah, ça se passe ce qui s'est passé au moment de la Convention nationale, c'est-à-dire que, y a pas de. Toute décision en première lecture est une décision en dernière lecture. Et du coup, il n'y a pas de possibilité de tempérance, il n'y a pas de possibilité Enfin, non, puis surtout, tu as un risque d'écrasement des voix de l'opposition, quoi. Déjà que ça marche pas super avec deux chambres, on aura peut-être même besoin d'une troisième. Les décrets doivent-ils être votés au bout d'un moment ou subir le contrôle par le Parlement? Non, un décret, c'est pas un truc provisoire. Un décret, c'est un texte réglementaire qui précise l'application de la loi. Est-ce qu'il est contrôlé par le Parlement? Bah oui, parce que le Parlement contrôle en permanence l'action du gouvernement. Donc si le gouvernement prend des mauvais décrets, les parlementaires, ils sont dans leur rôle en disant au gouvernement, non, vous faites de la merde. Et le Parlement, il peut changer la loi pour forcer le gouvernement à changer ses décrets. Comment sont nommés les sénateurs? Ils sont pas nommés, ils sont élus, les sénateurs. C'est pas une nomination. C'est une élection. Et ils sont élus par les élus locaux, les maires. C'est quoi la différence entre décret et ordonnance? Un décret, c'est du pouvoir réglementaire, donc c'est une décision administrative d'application de la loi. Une ordonnance, c'est une loi qui a été adoptée selon une méthodologie particulière, puisqu'elle a été rédigée par le gouvernement avec autorisation préalable du Parlement pour ça, et ratification par le Parlement. Une ordonnance, en fait, c'est le Parlement qui délègue au gouvernement, sur un sujet donné et pendant un temps donné, la responsabilité de faire la loi en disant je contrôlerai plus tard. C'est un peu comme si... Attends, je réfléchis. C'est un peu comme quand... Le pharmacien, il a un apprenti qui s'occupe de préparer ta commande de médicaments. Une fois qu'il a préparé la commande, l'apprenti, il dit au pharmacien, monsieur, monsieur, vous pouvez vérifier. Le pharmacien, il regarde comme ça au-dessus de son épaule, il regarde les médicaments, il fait, ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà, il vient de valider ce qu'a fait son apprenti, donc il vient de donner sa crédibilité de formateur en disant, c'est bon. Et bah, le Parlement, il peut faire pareil avec le gouvernement. Le Parlement peut dire au gouvernement, bon, sur ce sujet-là, je te laisse écrire la loi. Tu reviens me voir après avec ce que tu as écrit et je valide ou pas. Voilà. Est-ce que les votes des maires pour les sénatoriales sont publics? Non. Assistant parlementaire, du coup, c'est pas fonctionnaire, c'est quoi comme statut? Ça peut être fonctionnaire détaché. Quand t'es fonctionnaire, tu peux être détaché pour travailler en cabinet. Ça peut être fonctionnaire détaché, mais ça peut. Sinon, c'est contractuel, hein, tu signes un contrat de travail. Salut Jean, j'ai pas trop suivi l'actuel politique du moment. J'ai cru lire que la présidente de l'Assemblée nationale a bloqué l'abrogation de Liotte. Comment ça se fait? Je t'invite à regarder sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo de 20 minutes qui t'explique tout ça. Là, je vais pas pouvoir te faire une version courte, hein. Est-ce qu'on peut amender une ordonnance? Oui, bien sûr. Le Parlement peut modifier une ordonnance au moment de sa ratification. Il peut décider de changer des trucs si... Oui. Comment le Parlement contrôle l'exécutif sur les questions militaires, diplomatiques et renseignements? Il y a une délégation parlementaire au renseignement. Qui travaillent sur les sujets de renseignement et pour des raisons évidentes de sécurité nationale, leurs travaux ne sont pas publics, mais ils font leur boulot quand même. En matière diplomatique, eh ben, il y a la commission des affaires européennes et internationales à l'Assemblée nationale, hein. Il y a des commissions d'enquête qui sont possibles, il y a plein de trucs. Voilà. Et sur les questions militaires, bah là, il y a eu la loi de la loi de programmation militaire. Il y a des débats au Parlement sur l'engagement français dans les théâtres d'opération, sur les alliances, etc. Enfin, ils font leur boulot, hein. Boyard et sa perte d'indemnité, tu en penses quoi? Louis Boyard, le député, a été sanctionné parce qu'il continuait à crier en séance publique après avoir été invité à faire silence par la présidente de la séance. Et puisqu'il continuait à crier, il a été sanctionné, conformément au règlement de l'Assemblée nationale. C'est pas inhabituel. Hein. Bon, pas très important non plus. T'as vu les questions du bac philo aujourd'hui? Non, j'ai pas vu les questions du bac philo. J'ai pas regardé. Merci, Truitosaur. Tu saurais me dire pourquoi De Gaulle voulait supprimer le Sénat en 69 et aussi pourquoi on dit que le Sénat est toujours à droite? Non, il voulait pas supprimer le Sénat en 69. De Gaulle, il a créé un. Il avait fait un référendum sur la régionalisation qui était une manière pour lui de reprendre la main suite aux événements de mai 68 et suite à sa victoire aux élections législatives. Le truc, c'est que les Français l'ont pas entendu de cette oreille et ils ont voté non. Ils ont élu une majorité, les Français ont élu une majorité gaulliste à l'Assemblée nationale suite à mai 68. Mais ça n'a pas permis à De Gaulle, qui voulait encore plus rationaliser le Parlement à l'occasion, enfin, en tout cas, qui voulait limiter les pouvoirs du Sénat en 69 et créer la régionalisation, qui était une organisation un petit peu spécifique, mais on est bien avant les lois de décentralisation, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et les Français ont voté non. Et pourquoi est-ce qu'on dit que le Sénat est plutôt à droite? Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, le Sénat, comme je vous le disais, est représenté. Ah, merci Truitosaur pour ton prime, pardon. Le Sénat, les sénateurs sont élus par les élus locaux. Or, dans les élus locaux, il y a une surreprésentation des maires des petites villes. En France, il y a 36 000 communes, et l'écrasante majorité des communes en France, c'est des petites communes rurales. Les maires de ces petites communes rurales sont donc très surreprésentés dans les élections sénatoriales. Or, sociologiquement, les maires des petites communes rurales sont plus conservatrices, sont plus conservateurs. Voilà. Donc il y a une surreprésentation de la droite au Sénat. C'est quoi le mode de scrutin au sénatorial? Ça dépend des départements. Dans les départements les moins peuplés, c'est des scrutins. C'est des scrutins majoritaires. Et dans les départements les plus peuplés, c'est des scrutins proportionnels. Ça dépend des départements. Tu vas prendre une pause pendant l'été, Jean? Ouais, mais pas tout de suite. Après le 14 juillet. Quel est le rôle du Parlement européen? Parlement européen, il décide, il co-décide des législations européennes avec le Conseil de l'Union européenne, donc avec les gouvernements des États membres, sous l'initiative de la Commission européenne. C'est quand les prochaines sénatoriales? C'est en septembre prochain. Est-ce que les votes au sénatorial sont publics? Non. Quelle différence entre un mouvement, un parti et un micro-parti? Un mouvement, c'est un mot que tu donnes à une organisation politique pour désigner son. Comment dire? son aura, son poids politique, tu vois. Et sa volonté de changer les choses, on va dire ça comme ça. Un parti, c'est une organisation administrative. Un parti, c'est une forme spécifique d'association de citoyens qui présente des candidats aux élections et qui présente des candidats aux élections et qui élabore des propositions, des programmes politiques, des critiques et des choses comme ça. Un mouvement, bah, le mouvement MeToo, par exemple, c'est un mouvement. C'est un mouvement d'opinion. C'est un mouvement de, voilà, le mouvement climat, c'est un mouvement. Mais c'est pas forcément des partis. Présente pas des candidats, tu vois. Des mouvements peuvent se doter de partis. Rappelez-vous, il y avait eu des discussions au moment des Gilets jaunes, par exemple. Le mouvement des Gilets jaunes, il y avait des questionnements pour savoir, tiens, est-ce que ça vaudrait pas le coup de créer un parti des Gilets jaunes? Bon. Donc un parti, c'est une association, c'est une organisation. Et un micro-parti, c'est le nom qu'on donne à des partis politiques qui sont créés par des personnalités politiques dans le but de récolter des dons pour pouvoir peser. Pour pouvoir. Ouais, un micro-parti, c'est un petit parti politique. Est-ce que tu es adhérent d'un parti politique? Non. Génération.s était un mouvement à la base. Oui, alors évidemment, il y a plein de partis politiques qui se disent être des mouvements, parce que partis politiques, les Français n'aiment pas trop les partis politiques. Mais bon, il y a un moment. On peut jouer sur les mots autant qu'on veut, mais quand tu présentes des candidats à des élections avec un programme derrière, ça s'appelle un parti. Comment l'État décide de fixer le taux de TVA? Étant un impôt le plus injuste, ce serait-il pas judicieux d'essayer de le baisser en ce moment? Le taux de la TVA est fixé par les députés à l'occasion du budget. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'essayer de le baisser en ce moment? Bah, c'est une discussion politique absolument fascinante que les députés ne manqueront pas d'avoir à l'automne prochain. Parce que baisser la TVA, oui, ça permet de soutenir le pouvoir d'achat des gens quand ils achètent. Puis ça fait aussi baisser les recettes de l'État. Donc bon, on a quand même un chouïa besoin d'embaucher des fonctionnaires en ce moment quand même. Des profs, des infirmières, tout ça, tout ça. Pourquoi injuste? La TVA, c'est un impôt qui est jugé injuste parce que c'est le même taux qui s'applique à l'ensemble des produits. Quelle que soit la situation des personnes qui payent. C'est pas un impôt progressif, la TVA. C'est 20%. Et que tu sois riche ou pauvre, tu paieras le même montant d'impôt sur sur ton litre de jus d'orange à la caisse du supermarché. Ce que ça a comme conséquence, c'est que la TVA va peser plus lourd en proportion sur les ménages les plus fragiles, que sur les ménages les plus riches. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que c'est jugé injuste, c'est parce que on paye tous pareil, on paye tous le même taux de TVA sur ce qu'on consomme, mais on n'est pas tous égaux face à la consommation, quoi. Pas une TVA plus réduite sur certains produits. Alors si, justement, et c'est pour ça justement qu'il y a des débats politiques intéressants sur la modulation des taux de TVA. En disant, est-ce qu'on pourrait pas créer une TVA réduite sur certains produits, par exemple les produits de première nécessité, pour justement ne pas pénaliser les personnes les plus fragiles qui achètent par exemple du lait en poudre pour les bébés. Les mamans, elles sont obligées d'acheter du lait en poudre pour les bébés, et même les mamans les plus pauvres, elles n'ont pas le choix. Et donc voilà, donc est-ce que ce produit de première nécessité. Voilà. Merci, Mister Yugis. À l'inverse, il y a aussi les propositions de TVA sur le luxe. Ça existait dans les années 70, je crois. TVA sur le luxe à 33%. Quelqu'un qui a les moyens de se payer une montre Rolex, il peut payer un peu plus de TVA. Ça va pas l'empêcher d'acheter sa montre Rolex. Vu qu'on sait tous que le prix des montres Rolex n'a rien à voir avec le produit, que c'est purement positionnel. Voilà, c'est un exemple. J'ai entendu que la TVA était une invention française. Taxer la valeur ajoutée, c'est français comme invention? Ah, c'est possible, ouais. Début années 70. Oui, c'est possible. Après, ça existe quand même dans beaucoup de pays maintenant. Est-ce qu'on peut retrouver les replays des questions au gouvernement que tu commandes quelque part? Oui, sur ma chaîne YouTube Jean Massier Replay, où vous avez les replays de l'ensemble de mes streams. La TVA dans l'Union européenne est en partie uniformisée. Oui, bah ça fait partie de, effectivement de l'intérêt de l'Union européenne, c'est aussi d'harmoniser les taux d'imposition et autres taxes de manière à créer un espace homogène et des politiques économiques communes. Est-ce qu'il y a des personnalités politiques que tu admires? C'est une bonne question, ça. Actuellement, en France, non. Mais Nelson Mandela, ouais, je trouve que ça a du panache. Voilà. Voilà. Nelson Mandela. Non, mais voilà, oui, alors oui, si on va chercher des personnalités historiques, oui, Badinter. Oui, Badinter. Il faut laisser du temps pour fabriquer de l'admiration. Réponse trop facile. Oui, non, mais voilà, on va chercher Jean Jaurès, on va chercher dans l'histoire, oui. Léon Blum, Pierre Mendès France, Simone Veil. Clémenceau, oui, non mais voilà, non mais c'est facile. Oui. Aristide Briand, ah bah oui, Aristide Briand, ah bah forcément, ah bah oui, bah oui. Périclès. Alexandre le Grand, ouais. Ouais. Vous savez quel âge il avait, Alexandre le Grand? Quand il a levé l'armée de son père pour aller conquérir la Perse? Il avait 17 ans. Hein? Au lieu de passer sa journée sur TikTok à faire des trends. Alexandre le Grand, il a pris son bouclier, son épée. Bon, il a pris l'armée de son père parce que c'était plus facile, mais peu importe. Et il est allé massacrer des hommes, des femmes et des enfants partout à la surface de la planète. On pourrait aller envahir nos voisins. Je découvre ta chaîne. Quelle est ta ligne éditoriale? Regarde, c'est écrit dans la description. Il s'emmerdait. Oh, faut croire. Fils à papa. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Ah, bah attends, hé. À l'époque, les jeunes. Bon, ils tuaient des gens. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Faut se dire que. Les TikTokers gagnent plus d'argent qu'Alexandre le Grand. Voilà, c'est ça. Hein, pendant ce temps-là, les TikTokers qui font du Kwaku Bey, Bah, il gagne du pognon et plus qu'Alexandre le Grand, c'est dégueulasse. La société secoua Cubiz. Ah bah ça. C'était comme ça, ne pas interpréter le passé avec des systèmes de pensée d'aujourd'hui. Alors, oui, virgule, néanmoins, la colonisation c'était pas ouf, l'esclavagisme c'était pas ouf, le sexisme institutionnalisé c'était pas ouf, l'extermination à une échelle industrielle des juifs d'Europe c'était pas ouf. Voilà, quelques exemples comme ça, tirés de l'histoire, sur lesquels je m'autorise à avoir un jugement. Avec la facilité de mon époque, je te l'accorde. Je te l'accorde. Arrête de faire de la politique. Ah merde, je politise l'histoire. Oh merde. Dis donc, ça n'aime pas les méchants. Ah, moi je suis neutre, hein. Ah, moi je suis neutre, hein. Je veux pas prendre parti, hein. Oh là là. Finalement, les nazis, les juifs, bon. Pardon. L'apartheid, ouais, l'apartheid. Oh, l'apartheid, c'est en Afrique du Sud, hein. Moi, je suis européen, je vais pas porter un jugement sur un autre pays qui est pas le mien. Ça me regarde pas. C'est culturellement, ils font leur truc. Voilà. C'est comme les mollahs en Iran, les talibans en Afghanistan. Bon, voilà. Qui suis-je pour porter un jugement? C'est une autre culture, ouais. Vous avez compris que c'est une blague, hein. J'en vois dans le fond qui ont un doute. C'est une blague, hein. Le Ku Klux Klan, oui. Ku Klux Klan, ça me regarde pas. Je suis pas américain. Et les Japonais, ils sont japonais. Le Japon impérial, bon. Pour Backseat. Merci Azot Waves, merci beaucoup pour ton don. Merci pour ton financement. N'hésitez pas à participer au financement de Backseat, hein. Merci pour vos dons. C'est lesquels les Chinois du Japon déjà? C'est pas ceux de Corée, c'est les autres. Putain, c'est con. C'est la fin du stream à coup sûr. Non, 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 c'est pas la fin du stream. Non, non, j'étais en train de réfléchir. J'étais en train de réfléchir en vous invitant à faire un don régulier sur KissKissBankBank. Faire un don régulier pour financer Backseat, c'est le mieux parce que ça nous permet de l'avoir de la prévisibilité, notamment sur une saison 3. Vos dons vont nous permettre de préparer la saison 3 de Backseat en sachant à peu près où on va. Aujourd'hui, grâce à vos dons sur KissKissBankBank, attends, regarde. Hop. Aujourd'hui, grâce à vos dons sur KissKissBankBank, on réussit à récolter 11 000 euros par mois. Et j'aimerais bien qu'on réussisse à arriver à 16 000 euros par mois, parce que ça nous permettrait de garantir une émission par mois au moins à la rentrée. Une saison 3 dès la rentrée. Bah justement, c'est ça la question. C'est ça la question. Dans quelle mesure est-ce qu'on réussit à faire une saison 3 à partir de la rentrée de septembre prochain? Sachant que chacun des épisodes coûte 16 000 euros. Ça coûte si cher que ça, une émission, il y a un endroit où tu expliques un peu le fonctionnement. Oui, sur la page Kiss Kiss Bank Bank. N'hésite pas à aller sur point d'exclamation Kiss Kiss dans le chat. Tu verras. Tout est expliqué. Et 16 000 euros, 16 000 euros, c'est le coût de production d'une émission. C'est uniquement pour les coûts de production où les invités sont rémunérés parfois aussi. Les invités ne sont jamais rémunérés. Les coûts de production d'une émission, c'est les coûts de fabrication technique de l'émission, c'est-à-dire le matériel plus les techniciens qui utilisent le matériel. Donc ingé son, ingé lumière, installation du matériel. Réalisateur, etc., etc., etc. Okay. Ensuite, c'est la location de la salle où on fait l'émission. Ensuite, c'est l'équipe éditoriale. Donc, c'est la rémunération du journaliste qui prépare éditorialement l'émission avec moi et qui fait la programmation. C'est la rémunération des chroniqueurs pour leur travail de préparation de l'émission. Et qu'est-ce qui manque encore? Il y a la logistique, les divers frais le jour J pour accueillir le public dans de bonnes conditions, etc. Le monteur qui fait les best-of, qui s'occupe de la chaîne YouTube, le community management. Et ensuite, il y a tous les frais qu'on adore, administrativo comptables. Et donc au bout du bout du bout, on arrive à 16 000 euros par émission, ce qui est très peu. Pour une émission de 3 heures en direct, en plateau et en public, c'est très très peu. Il y a les impôts aussi, hein, évidemment. Hello, quel est le programme pour Backseat demain? Il n'y a pas Backseat demain. Demain, à 18 h, il y a une émission spéciale en partenariat avec la Banque de France sur le sujet justement de la politique monétaire et de la lutte contre l'inflation. Avez-vous des sponsors pour Baxit? Oui, on a quelques sponsors pour Baxit et on espère bien en trouver davantage pour la saison 3 parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'argent pour faire la saison 3. Tu fais comme beaucoup de streamers sur tes events et tu ne payes pas sur tes projets. Moi, je me paye en dernier, mais... Je me paye que s'il reste de l'argent. En tout cas, ouais, non. T'as pas annoncé ton cachet à toi par émission. Bah en fait, j'ai pas de cachet moi, parce que comme je suis coproducteur, je me paye que s'il reste de l'argent à la fin et cette année, il en restera pas. Est-ce que c'est le même budget, le festival et la saison 3? Non, c'est pas le même budget. Quand tu dis en partenariat, j'espère que la Banque de France t'ont filé des thunes pour la saison 3 de Backseat. Alors, c'est pas une émission Backseat demain. L'émission avec la Banque de France, ça n'a rien à voir avec Backseat. En revanche, on va voir, enfin bon, on va voir l'émission de demain, comment elle se passe. On va voir si la Banque de France, ça se passe bien, ils sont contents, etc. Ça pourrait potentiellement devenir un partenaire de Backseat l'année prochaine. Du coup, c'est 16 000 euros par émission sans ton salaire. Oui, mais du coup, il n'y a pas de salaire pour moi. Seize mille euros sur une émission, mais les sponsors, ils payent combien là-dessus? Je te dirai pas. Je te dirai pas parce que ça relève du secret commercial. Merci, cœur de myope. Merci beaucoup. Tu vis entièrement de Twitch aujourd'hui? Ouais. Oui, je vis entièrement de Twitch. Je vis entièrement de Twitch. Et Backseat est un projet autonome. Ce qui veut dire que j'ai la chance, enfin j'ai la chance et Backseat a la chance, que je n'ai pas besoin de Backseat pour vivre et Backseat n'a pas besoin de me faire vivre. Ça, c'est pratique. Tu vis comment si les subs et les dons vont à Backseat et que tu te payes pas? Les subs vont pas à Backseat, les subs vont bah à moi. Je vis grâce à vos abonnements sur ma chaîne Twitch. Et Backseat vit en partie grâce à vos dons et en partie grâce aux sponsors. Tu préfères qu'on s'abonne à ta chaîne ou qu'on fasse des dons à Backseat, si on n'a pas les moyens de faire les deux? C'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous regardez le plus ou de ce que vous souhaitez soutenir le plus. C'est vraiment vous qui voyez, hein. C'est, si vous aimez Backseat et que vous voulez soutenir Backseat, bah, abonnez-vous à Backseat. Enfin, oui, faites un don régulier à Backseat. C'est le meilleur moyen de soutenir cette émission. Si vous regardez un peu Backseat, mais vous êtes surtout présent dans mon chat pendant les émissions, le reste de la semaine, etc., bah, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Voilà. As-tu pas... T'as pas peur de donner une image positive du Backseat avec ton émission? J'en suis navré. Merci Roselmack. Heureux de contribuer à te permettre de vivre de ta passion. Bah merci Roselmack. Heureux de contribuer à vos pérégrinations sur Twitch, en espérant vous intéresser à la politique. C'est le but. Eh, c'est un bon business, hein. Ça marche bien entre nous, je trouve. Moi, je vous intéresse à la politique et vous, vous me permettez d'en vivre et de faire des bonnes émissions. Merci pour vos dons. Est-ce que tu as déjà dû batailler sur les droits d'auteur de Backseat avec d'autres émissions qui récupèrent les images? Batailler, non. Non, non, batailler, non. Ça nous est déjà arrivé d'autoriser la reprise des images de Backseat par des médias. Enfin, ça nous est déjà... Oui, de toute façon, c'est obligatoire de demander l'autorisation. Pour récupérer, pour reprendre des images. Je sais pas si on a déjà vendu des images de Backseat sur la première saison, si je crois. Il avait donné combien le CNC? Le CNC a donné une subvention de 30 000 euros. Ce qui permet donc de financer deux émissions. Tu te payes dans Backseat? Moi non, mais tout le reste de l'équipe oui. Que tu penses des critiques sur l'orientation politique de Backseat, notamment que l'émission serait trop à gauche? C'est normal, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que le projet va se recentrer et des chroniqueurs issus de la droite? J'en sais rien, on verra. On verra, ça dépend de qui, ça dépend de comment, ça dépend de pourquoi, mais oui, je comprends, je comprends. Je sais que l'émission Backseat est très critiquée parce qu'elle est trop à gauche aux yeux de beaucoup, ce que je comprends tout à fait. C'est normal, y a pas de mal, et de toute façon, Backseat ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est normal. Et encore une fois, le plus important pour moi, c'est que cette émission soit regardée par des gens qui ne sont pas habitués à regarder de la politique, qui n'aiment pas la politique. Donc l'opinion des personnes passionnées de politique, engagées, militantes, etc. sur Backseat, c'est jamais une opinion qui m'intéresse. Des chroniqueurs de droite qui sont pas racistes, c'est rare. C'est pas évident à trouver. On est dans un contexte culturel où c'est vrai que des personnes férues de culture web qui ont une analyse autonome de l'actualité politique et qui ont des contenus sur Internet qui sont pas d'extrême droite. C'est dur à trouver à droite. Si on est en don régulier, est-ce que ça marche aussi en juillet et août? Oui, et ça nous permettra de préparer la saison 3. C'est pour ça que pour nous, c'est utile d'avoir des dons réguliers. C'est que ça nous permet d'avoir de la prévisibilité. Les dons ponctuels sont les bienvenus, et merci pour vos dons ponctuels. Les dons réguliers. Hop là. Ça nous permet d'avoir de la prévisibilité. Attends, j'essaye de réactualiser la barre de dons. J'en profite pour remercier Joker, qui est la personne qui a fait cette barre de dons. Parce que je vous rappelle que quand on a quitté Utip, enfin, on a quitté Utip, Utip est mort, et qu'on est arrivé sur KissKissBankBank, il n'y avait plus de barre de dons. Parce que KissKissBankBank, ils n'ont pas de barre de dons. Du coup, on a bricolé un truc. Enfin, on a bricolé. Non, Joker, qui est un follower et un soutien de la chaîne, nous a bricolé une petite barre de dons que vous voyez là-haut, et que j'essaye de mettre à jour, et qu'on va garder les 2 prochaines semaines. Donc, du coup, là, vous avez l'objectif final. De combien d'argent il reste pour finaliser la saison? Il reste 28 000 euros à récolter pour finaliser la saison. Est-ce que vous allez réutiliser le même plateau? Parce qu'il est bien, je trouve, c'est pas la peine d'en refaire un nouveau. Tu parles du desk ou du studio? Le desk, il est très bien. Ah oui, non, le desk, on va pas en reconstruire un. Hein. J'imagine que le CNC ne peut pas refaire un chèque de 30 000. Si, sur la saison prochaine, ils peuvent. C'est vrai que ce serait bien un chroniqueur de droite. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ce serait bien un chroniqueur de droite ou proche d'Emmanuel Macron. Enfin, du gouvernement, etc. Mais c'est dur à trouver. Le montant de la barre de progression n'est pas hyper lisible, couleur orange, je pense. Oui, ça fait partie des trucs qu'il faut que je change. Ça fait partie des trucs qu'il faut que je change. Ouais. On est encore en train de faire de peaufiner, hein, mais je suis d'accord avec toi, le orange, il est pas très facile à lire. Comment sont recrutés les chroniqueurs sur Backseat? Et bah c'est moi qui les recrute, qui en discute avec eux, qui leur propose, qui les invite. Voilà. Il y a plein de chroniqueurs à qui je propose. Enfin, oui. C'est des gens dont on entend parler, qu'on connaît. Je regarde ce qu'ils font, etc. T'as déjà eu des refus? Ah oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. J'ai eu des refus. Bah, les macronistes. Ils se cachent, hein. Alors déjà que les ministres veulent pas venir sur mon plateau pour défendre la réforme des retraites, alors. Alors les chroniqueurs, si tu veux. Les compétences voulues. Chroniqueur sur Backseat, c'est difficile comme boulot, hein. C'est difficile, ça demande des compétences particulières. Moi, je cherche des personnes qui ont une autonomie d'analyse. Qui ont une autonomie de parole aussi, ce qui n'est pas facile. Ça veut dire que je veux pas de journaliste, et je veux pas de militant, et je veux pas d'élu. Je veux pas de porte-parole en fait, de quoi que ce soit. Donc je veux pas des gens qui ont une parole contrainte, ça m'emmerde. S'ils sont journalistes, je veux m'assurer auprès d'eux qu'ils ont bien une autonomie totale d'analyse et de parole sur Internet. Et Usul, il est chroniqueur, il n'est pas journaliste. Usul, justement, il fournit des analyses, c'est même son métier carrément d'être chroniqueur, donc justement. Je recherche des personnes qui, autant que possible, ont une culture web. Oui, mais il est militant. Il est engagé, Usul. Il n'est pas militant, hein. Militant, ça voudrait dire qu'il milite en faveur d'une organisation politique particulière. Usul est quelqu'un de gauche, c'est un chroniqueur engagé à gauche. Mais il n'est pas journaliste Mediapart et il n'est pas militant ni de la France Insoumise, ni de je sais pas quoi. Est-ce qu'un militant a une parole contrainte? C'est une question sérieuse. Non, en tout cas, ce que je veux comme chroniqueur sur mon plateau, ce sont des personnalités qui ont une autonomie d'analyse et qui sont capables d'avoir une distance critique, y compris vis-à-vis des camps politiques dont ils se sentent proches. Ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir le point de vue des partis politiques sur mon plateau. J'en ai rien à foutre. J'ai déjà des invités politiques qui sont invités pour ça. J'ai pas envie que les chroniqueurs viennent défendre un camp ou encore moins un parti. Ça m'emmerde. Donc les porte-paroles de partis, les présidents des jeunes avec machin, ça ne m'intéresse pas comme chroniqueur. Pareil pour les élus. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir des élus en chroniqueur parce que je connais très bien les élus, je sais comment ils fonctionnent, ils sont chiants à mourir dès qu'ils sont élus. Ils ont une parole contrainte, ils représentent leur camp, ils défendent leur mandat, ce qui est très bien, hein, c'est très bien. Juste pas sur mon plateau, ça m'en... Enfin, en tout cas, pas en tant que chroniqueur. Il y a les invités politiques qu'on invite pour ça, justement, mais les chroniqueurs, ils ont un autre rôle. Et on n'est pas là pour faire des débats avec nos invités. C'est pas du tout ça que j'attends de mes chroniqueurs. Donc tu comptes pas les militants non politiques comme militantes féministes qui eux peuvent être chroniqueurs. J'ai pas compris. C'est quand même fou d'avoir le droit d'être un communiste revendiqué et d'idolâtrer Staline comme Usul et passer sur un plateau alors qu'il n'existe pas de parti nazi ou fasciste en France, ce qui est normal. D'accord. D'accord. Hésite pas à regarder les émissions d'Usul où il explique ce que c'est que le trotskisme. Tu comprendras pourquoi je te dis ça. La différence entre, en tout cas, la spécificité du trotskisme dans le communisme. Tu verras. N'hésite pas. Et tu comprendras Usul et trotskiste. Voilà, tu verras. C'est quoi l'objectif concret d'une émission, du coup, si c'est pas le débat? C'est plus de répondre à des questions et de vulgariser. Alors, tout dispositif éditorial poursuit un but. Le but du dispositif éditorial de Baxit, c'est d'intéresser un public éloigné à l'actualité politique. L'écrasante majorité des jeunes de France n'est pas passionnée de politique, n'est pas adhérente de partis politiques et ne participe pas au débat public quotidiennement. Ça veut pas dire qu'ils sont cons, ça veut pas dire qu'ils s'en foutent, ça veut pas dire qu'ils machin, mais le fait est que il est difficile pour les jeunes en France de consommer des contenus politiques qui s'adressent à eux. Le but de Baxit, c'est de s'adresser à eux. C'est de leur offrir à eux une émission d'actualité politique en plateau et en public, au cours de laquelle on traite l'actualité politique pour leur montrer que l'actualité politique leur appartient, qu'ils ont le droit de s'y intéresser et qu'ils ont le droit de se former une opinion dessus. C'est ça le dispositif éditorial de Baxit. Ce n'est donc pas une émission qui s'adresse aux passionnés de politique, aux militants, aux gens qui ont déjà beaucoup de contenu à la télévision, à la radio, sur Internet, qui s'adresse à eux et qui marche très très, très bien. C'est un autre objectif. Ça vise un autre public. Je vote même pas, je fais un effort pour me renseigner en étant ici. Bah voilà, tu vois, Pitchoun, Baxit s'adresse exactement à toi. Une impression de tellement avoir à rattraper de retard sur le passif des groupes politiques ou autres, faut se motiver pour se mettre dedans la politique. Exactement. La politique, c'est difficile d'accès. Et c'est ça qui me fait chier. C'est pour ça que j'essaie d'en faciliter l'accès. Ça fait 8 ans que je fais ça sur Twitch. J'essaie de faciliter l'accès à la politique en répondant à des questions, en commentant les séances à l'Assemblée nationale, en expliquant, en essayant de rendre ça le plus accessible possible. Et Baxit, ça sert aussi à ça. Est-ce que tu penses que vous arrivez à toucher votre cible?
Oui, je pense, oui.
Bah, si j'en compte par les soutiens qu'on reçoit, par les messages qu'on reçoit, par les remerciements qu'on reçoit, justement de la part de gens qui disent bah, merci, grâce à vous, je m'intéresse à la politique, bah, ça veut dire qu'on y arrive. Donc c'est plus un objectif éducatif. C'est de la vulgarisation. C'est de l'éducation populaire. C'est de la médiation. C'est... Je sais pas, appelle ça comme tu veux. Je suis trop intéressé pour venir, mais je suis trop jeune, garde une place pour dans 10 ans. Pourquoi tu serais trop jeune? À partir du moment où t'as l'âge pour taper un message dans un chat Twitch, t'as l'âge pour regarder ce qu'il y a sur Twitch, hein. Sois le bienvenu. Merci Caillouette. Est-ce que au total, Twitch, YouTube, podcast, a une idée du nombre de personnes touchées? Backseat, oui, Backseat, c'est une émission qui fait environ 100 à 150 000 vues par émission. Et si tu rajoutes les en live, et si tu rajoutes les replays, on monte à 250 000-300 000 vues par émission. Alors après, c'est toujours difficile de savoir combien de personnes regardent plusieurs fois la même émission et tout, mais c'est à peu près ça les grandes masses. Ah oui, autant de gens en replay. Oui, Backseat est une émission qui marche très très bien en replay. Tant mieux, hein, je suis très content. C'est une émission Twitch, hein, moi je l'ai pensé pour Twitch, je veux que ce soit en direct et tout, mais c'est une émission qui marche très bien en replay. Tu vois, Popcorn, ça marche moins bien en replay. Enfin, attention. Ça marche toujours mieux que Backseat, hein, ils font beaucoup plus d'audience que nous, mais si tu fais le ratio replay live, Popcorn et Zen sont des émissions qui marchent très très bien en live. Et moins bien en replay. Nous, Backseat, on est assez équilibré, je trouve, en nombre de viewers, et à peu près autant en live qu'en replay. Et Underscore, par exemple, je trouve qu'il marche très très bien en replay par rapport à ce qu'ils font en live. Tu vois, c'est vraiment... Bon. Ça dépend. Y a Backseat en podcast? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on dit ministre de l'économie et des finances? C'est quoi la différence entre économie et finance? L'économie, ça désigne tout ce qui relève du commerce. Les finances, c'est ce qui relève des finances publiques. C'est pas la finance. C'est les finances publiques. Voilà. Donc le budget, l'État, les impôts, les taxes, etc. Après Underscore, ils font vraiment un taf de montage pour les replays. Oui, non, 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 complètement, je reconnais tout à fait. Non, Underscore, c'est vachement bien ce qu'ils font, hein. C'est pas une critique, c'est juste que je constate qu'il y a des modes de fonctionnement différents et des résultats différents. Ministre de l'Intérieur versus ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, c'est en réalité le ministre des Armées, d'ailleurs c'est comme ça qu'il s'appelle. Ministre des Armées s'occupe de l'organisation des armées, de ses moyens, de son organisation, etc. Le ministre de l'Intérieur s'occupe de notamment des enjeux de sécurité. À l'intérieur du territoire national. Voilà. Salut Altisplay. Ça parle de quoi? Ça parle de Backseat. Le nazisme est bien plus de gauche que le fascisme pour le coup. Hein? Voyez pourquoi. C'est pour ça que je vous mets toujours en garde sur la notion de droite et de gauche, en disant que c'est effectivement un outil utile pour se comprendre quand on parle de politique de manière assez globale. Mais quand on rentre dans le détail, ça veut plus rien dire. Merci Altisplay qui offre un sub à Passessien, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est peut-être extérieur, mais tu aurais une explication sur le basculement historique du Parti radical? Non, c'est pas un basculement historique. Le Parti radical a jamais bougé. En fait, le Parti radical, c'est un parti républicain. C'est un parti républicain, c'est un parti qui défend la République, ce qui fait que, au cours du 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'était un parti d'extrême gauche. Parce qu'à l'époque, il y avait des monarchistes en face, donc forcément, il y a un moment, quand tu étais républicain, tu étais de gauche au 19e siècle. Et puis finalement, au fur et à mesure de la révolution industrielle et de l'entrée dans le 20e siècle, bah, est né le parti, enfin, le mouvement ouvrier, les thèses marxistes, et donc le socialisme. Qui est arrivé et qui a commencé à décaler du coup le radicalisme vers le centre, petit à petit. Parce que les radicaux n'étaient pas forcément socialistes, il y en avait, les radicaux socialistes, les radsocs, comme on disait, les radicaux de gauche. Mais les autres radicaux, bon bah aujourd'hui ils sont au centre parce que la gauche est née entre-temps en fait. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'un vrai parti du centre peut émerger en France? J'ai l'impression que le contexte fait que les personnes veulent de la polarisation. Il y a toujours eu un parti du centre en France, toujours. Depuis la Révolution, il y avait le Marais à la Révolution. Il y a toujours eu un centrisme en France. Il y a une longue histoire du centrisme en France. Il y avait l'UDF pendant très longtemps. Ensuite, il y a eu le MoDem, le Parti radical évidemment. Il y a eu l'UDI aussi. Il y a la République en marche, puis Renaissance. Enfin, il y en a un paquet des partis centristes en France. Mes potes de gauche me disent que je suis à droite et mes potes de droite à gauche, donc ça veut rien dire. Ouais, bienvenue dans ma vie. Non, ça veut pas rien dire. C'est juste que c'est une convention dont les contours sont flous et avec lesquels on n'est pas tous d'accord. Qu'est-ce qui fait que les partis que tu viens de citer sont du centre? J'ai l'impression que politiquement, ils sont plutôt dans les idées de droite. Regarde la dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube qui explique justement les négociations qu'il y a en ce moment entre Renaissance et les Républicains. Tu vas voir le gap. Macron est de droite et VGE était du centre. Faut pas le dire trop fort, hein. VGE était du centre. Chirac était du centre. Ah oui, carrément. D'accord. Donc vous voyez comme quoi. Quand je vous dis que ce sont des conventions et que ça évolue avec le temps. T'as tous les quinquagénaires qui avaient 20 ans en 1979-80. Qui viennent faire un bond dans leur canapé en entendant que Giscard était du centre. Comment? C'est le même bond que vous vous ferez dans 30 ans quand vous lirez des chats dans le métaverse de jeunes qui diront mais Macron c'était un centriste. Comment? C'est qui VGE SVP? Quelle abréviation? C'est Valéry Giscard d'Estaing. VGE, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Président de 1974 à 1981. Fondateur de l'UDF. Droite centriste. Centre-droit non gaulliste. Voilà. On va dire ça comme ça. Européen libéral. C'est quoi le gaullisme? Le gaullisme, c'est le nom de la doctrine politique issue de Charles de Gaulle, qui a été au pouvoir en 45-46, puis de 58 à 1971, 70, 69. De Gaulle, c'était un centre droit aussi. Encore une fois, il n'y a pas de consensus sur le positionnement. D'ailleurs, vous le voyez bien dans le chat depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de consensus absolu et de vérité absolue sur les étiquettes et le positionnement des gens sur l'échiquier droite-gauche. Ce sont des conventions qu'on utilise, des conventions langagières qu'on utilise pour se parler et pour se comprendre. Il n'y a pas de consensus. Chacun est son propre centre. De Gaulle, vous écoutez ses conférences de presse, il t'expliquait qu'il était parfaitement au centre. Je veux le progrès, mais je veux pas la pagaille. Je suis et de droite et de gauche. Voilà. T'écoutes les anti-gaullistes, ils vont t'expliquer que c'était la pire ordure d'extrême droite possible et imaginable. Et t'écoutes l'extrême droite de l'époque, ils vont t'expliquer que c'était la pire ordure atlantiste, européiste et gauchiste existante. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on devrait interdire Zemmour de s'exprimer? Bah non, enfin, il a été condamné par la justice pour incitation à la haine raciale, ce qui devrait, selon moi, rendre réticents les journalistes à l'inviter s'exprimer partout. Au demeurant, il s'exprime moins maintenant qu'il a fait 7% à la présidentielle qu'avant la présidentielle où ça devenait vraiment débile. Mais il avait déjà été condamné. Toi qui as travaillé à l'Assemblée nationale, j'ai jamais travaillé à l'Assemblée nationale, mais peu importe, et qui commente et vulgarise la vie politique depuis des années, ne te lasses-tu pas de ce milieu? Tu sais, la politique, c'est pas fait pour être attrayant, divertissant, fun. Il y a une vraie réflexion à avoir sur est-ce que la politique a vocation à être attirante? Moi, je pense pas. C'est pas fait pour être plaisant, en fait, la politique. On parle d'enjeux durs, on parle d'enjeux difficiles, on parle de sujets complexes, on parle de sujets graves. On parle de la guerre, on parle de la mort, on parle de l'économie, on parle du pouvoir d'achat, on parle de. Rien n'est spontanément fait pour être fun. Est-ce que ça peut l'être? Oui, sur des moments, ça peut être très rigolo, la politique. Il y a des moments marrants. Mais c'est pour ça que, tu vois, le côté se lasser, la politique, ça peut être exaspérant, ça peut être saoulant, ça peut être fatigant, bien sûr, ça peut être déprimant, ça peut être aussi enivrant, ça peut être excitant, ça peut être haletant, puis ça peut être les deux à la fois, tu vois. Donc j'ai pas de lassitude par rapport à la politique comme je pourrais avoir de la lassitude par rapport à des sushis parce que j'en ai trop bouffé et que ça commence à bien faire. Tu vois, c'est pas la même chose. Merci, Mr. Screw Scott, pour ton sub. Merci beaucoup. Merci Kipomancer, merci beaucoup pour ton prime. Question premier degré, on te propose un poste de ministre, s'il y a un monde où tu l'acceptes. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ministre, ça veut rien dire. Hein. Ministre de quel gouvernement pour faire quoi? Dans quel calendrier? Dans quel contexte? Avec quels moyens? Sous la tutelle de qui? Avec quelle majorité? Tu vois? C'est. Selon toi, si les jeunes ne participent pas à la vie politique aujourd'hui, c'est principalement parce que c'est pas accessible. Alors déjà, c'est pas vrai que les jeunes ne participent pas à la vie politique. Ça, c'est absolument pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que les jeunes participent peu aux formes traditionnelles de participation à la vie politique, c'est-à-dire le vote, en gros. Le participation aux élections, aux processus électoraux et les adhésions aux partis politiques, aux syndicats, etc., c'est effectivement plutôt, plutôt peu pratiqué pour les jeunes. Mais ça veut pas dire qu'ils participent pas à la vie politique. On le voit très bien d'ailleurs dans les mouvements sociaux, on le voit sur Internet, on le voit partout où les jeunes, même entre eux, ils en discutent, etc. Donc la vie politique ne se résume pas au vote. Et la question de l'accessibilité, pour moi, est un enjeu. C'est pas le seul, mais c'est un enjeu. Il y a aussi la faiblesse des espaces de participation, on va pas se mentir. On peut pas reprocher aux jeunes de pas assez participer alors que juste, il n'y a pas de participation possible. Il y a un moment, à part voter, on ne nous propose pas grand-chose. Alors ça commence petit à petit, il y a des budgets participatifs, il y a des consultations locales, il y a des... Donc ça commence. Ça se met en place petit à petit. Est-ce que tu penses que l'intérêt pour la politique est davantage ancré à Paris qu'en province? Non. Non, non, ça, Paris, il faut arrêter. Hein. Non, non. Pas plus de politique à Paris que dans ce que tu appelles la province. Les provinciaux sont aussi très concernés par la paix dans le monde, le climat, l'économie, le pouvoir d'achat, la sécurité, les retraites. On n'a pas internet en province, c'est dur de se tenir au courant. Nous, en province, on pense qu'à ce qu'on va manger le soir, même si la mule familiale tiendra une année de plus. T'imagine avec ta bêche, dans ton champ, comme ça, reposé en disant, bon, oh, les turpitudes du monde. Oh, vous savez, moi, ça me passe au-dessus. Hein. Allez, viens, ma biquette. Allez, c'est l'anniversaire du petit, on va tuer une poule. On va manger du poulet ce soir. Poulet en sauce. Puis ça prend beaucoup de temps d'aller au puits. Ouais, On va allumer le four à bois. Hop. Attendez, j'essaye de... Tu n'es pas de Paris. Ah si, 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 si. Ah si, 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 si. Moi, je suis complètement de Paris, hein. Pardon, excusez-moi, j'essayais juste de re-réparer la barre de don, mais ça marche pas. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on va bosser dessus. Salut, je viens d'arriver. J'imagine que ça va être évoqué, mais selon toi, quelles vont être les conséquences de l'audition de Marlène Schiappa? Je sais que c'est pas un tribunal, mais est-ce qu'il y a une possibilité d'un procès contre la ministre? Le travail de la commission d'enquête sénatoriale va continuer son travail. J'en sais rien du tout de ce qu'elle va conclure, hein, la commission d'enquête. Je sais pas du tout, hein. Ça, faut pas me demander à moi de préjuger de ce que va dire la commission d'enquête. Et du côté de la justice, pareil, j'en sais rien. Le parquet national financier a ouvert une enquête. Il y a eu des perquisitions qui ont eu lieu hier chez un des protagonistes de l'histoire. Est-ce que Marlène Schiappa peut avoir à répondre devant la justice? Bah, vu que non, bah non, vu que c'est des... faudrait que ce soit la Cour de justice de la République à ce moment-là. Donc oui, enfin on verra, mais c'est dans les années qui viennent. Là, l'audition de Marlène Schiappa ce matin, ce n'était qu'une étape dans un processus qui va être long. Voilà. C'est quoi le pouvoir de la Chambre sénatoriale dans ce genre de commission? Le pouvoir du Sénat, c'est de déterminer si oui ou non, selon lui, il y a eu des dysfonctionnements dans les pouvoirs publics. Et ensuite, ils se démerderont pour changer les dysfonctionnements à l'occasion du vote des lois. Voilà, c'est tout. Ça ressemble pas à un bon vieux trafic d'influence, voire à une prise illégale d'intérêt. Pour ça, il faudrait démontrer qu'elle a obtenu, d'une manière ou d'une autre, une prise illégale d'intérêt. Il faut qu'il y ait un intérêt qui ait été pris pour elle. Pour l'instant, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on est plus sur un délit de favoritisme. Potentiel. Je sais pas. Je sais même pas ce que va requérir le parquet national financier au bout. Hein. On verra. Mais du clienté, ouais, alors le clientélisme, c'est pas une infraction en soi, c'est un terme journalistique pour désigner, mais c'est pas une infraction. L'infraction, c'est le délit de favoritisme. Mais après, moi, j'en sais rien. Pour le coup, je suis pas si je suis juriste, mais pas du tout spécialisé là-dedans. Il faut réussir à démontrer que c'est illégal, hein. Je sais pas si c'est illégal, hein, qu'un ministre distribue discrétionnairement des subventions. Immoral sans doute, mais alors illégal, je sais pas. Peut-être que la procédure est illégale, que l'intervention dans une commission d'attribution est illégale. Et encore, morale selon qui, chacun pense différemment. Oui, non, mais alors ça, c'est pour ça que je dis qu'il y a des conclusions politiques à en tirer, et il y a des conclusions judiciaires. La justice fait pas de la morale, elle fait du droit. C'est pour ça que je m'interroge à haute voix sur est-ce que c'est du délit de favoritisme, etc. Je sais rien, je sais pas mal. À voir, je sais pas, on verra. Et ensuite, il y a les conclusions politiques à en tirer. Ça, c'est autre chose. Merci Paolo Premier. Elle a mis son veto sur SOS Racisme, elle n'avait pas du tout le droit de faire ça, il me semble. Pourquoi elle a mis son veto sur SOS Racisme? Ils sont trop woke? C'est des antiracistes, donc des racistes. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Excusez-moi, j'arrive pas à m'y faire. Oui, non, mais d'accord, bon, bah voilà. Eh bah super. Eh bah super. On en vient à réduire les subventions à SOS Racisme. Super. Super, super, super. Elle a dit ce matin que c'est parce qu'ils avaient dit que le gouvernement était raciste. En même temps, c'est SOS Racisme, hein, c'est un peu leur boulot. Bon, il y a un moment, comment te dire? Que Marine Le Pen réduise les subventions à SOS Racisme quand elle arrivera au pouvoir, si un jour elle arrive au pouvoir. Je veux bien. Que Marlène Schiappa réduise les subventions à SOS Racisme, faut y aller quand même, hein. Quand tu étais dans l'associatif, comment ça fonctionnait les subventions? Oh bah ça fonctionne comme aujourd'hui, c'est-à-dire que tu déposes une demande de subvention. Alors en général, tu réponds à un appel à projet, en présentant ton projet, en disant combien il va coûter, en présentant un plan de financement et en demandant de l'argent. Voilà. Et ensuite, tu passes devant une commission, enfin ton dossier passe devant une commission qui examine toutes les demandes de subvention et qui attribue ou pas des subventions. En jugeant de la pertinence du projet, de la solidité de la structure, de plein de trucs, quoi. Sa ligne de défense, c'était j'ai pas réduit leur subvention, si j'ai bien compris. Par contre, elle a bloqué leur dossier pour le fonds. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'était un fonds spécifique sur des actions spécifiques. Donc, effectivement, c'est pas des lignes de crédit habituelles. Ouais. Oui, c'est ça, c'était un appel à projet. Donc, elle n'a pas réduit par ailleurs les subventions. Bon, oui, ok, d'accord. Ça aurait été cool qu'on puisse suivre l'audition sur ta chaîne, même si Dev Du fait un excellent job comme d'hab. Oui, mais j'avais prévu de faire une FAQ aujourd'hui. Désolé. Désolé, désolé, désolé. Ouh, pardon. Il dit qu'il est désolé. Il s'excuse. Il s'excuse. Bon, est-ce que vous avez des dernières questions à me poser sur la politique? On en profite, c'est une FAQ sur l'actualité, la politique. S'il y a des trucs que vous n'avez pas pigé, si vous avez du mal à comprendre un truc, un fonctionnement, un machin, si je peux vous aider à suivre l'actualité politique, n'hésitez pas à me demander. C'est le but de la FAQ. Pourquoi la gauche parle très peu de sécurité et semble larguée sur le sujet? Parce que la gauche s'est davantage construite sur des questions de justice en matière d'économie et de social. là où la droite se construit davantage sur un rapport de la sécurité des personnes. Voilà. De la même manière que la droite n'a pas un discours extrêmement bien construit sur la solidarité par rapport à la gauche, tu vois. Le champ politique français s'américanise-t-il? Non, il reste très européen. En revanche, les méthodes s'américanisent. C'est-à-dire on retrouve les logiques de fake news, de complotisme, etc., qu'on a vu avec un mimétisme intéressant vis-à-vis du trumpisme notamment. Pourquoi Jésus ne vole-t-il pas à notre secours? Faudrait que tu lui demandes. Définition de l'exécutif. Pouvoir exécutif, ça définit l'ensemble des institutions chargées de faire appliquer la loi et qui maîtrisent pour ça l'effectivité de l'autorité de l'administration. Pourquoi Macron essaye de sauver l'image de Pétain? Parce que visiblement, selon lui, virgule, c'est comme ça qu'on réconciliera les Français les uns avec les autres. Macron a rencontré Philippe il y a 2 jours, pourquoi selon toi? Pour discuter de l'opportunité d'un remaniement et de l'entrée des Républicains dans la coalition. Tu disais plutôt que c'était un milieu relativement fermé, comment on fait pour y mettre les pieds? De quoi, la politique? Ah, il n'y a rien de plus ouvert que la politique comme milieu. Hein. Tu peux aller à des manifs, tu peux aller à des réunions publiques, tu peux militer, rentrer dans n'importe quel parti. Non, c'est quand même plutôt open. Après, ça dépend ce que tu veux faire. Enfin, Si tu veux devenir président de la République, c'est un peu fermé, je te l'accorde. Si tu veux militer, t'engager. La faiblesse du socialisme à l'Assemblée a-t-elle un gros impact sur la ligne de gouvernement de Macron? C'est-à-dire que si le PS était plus puissant à l'Assemblée, Macron pourrait être tenté d'aller chercher des voix du PS dans une majorité plutôt que chez les Républicains? C'est dur à dire, peut-être. Comment savoir de quel bord politique on est? Est-ce qu'il existe un test? Non. Enfin, tu... C'est comme si tu me demandais comment est-ce qu'on fait pour savoir quels sont nos goûts en matière de peinture. Bah, je sais pas. Tu regardes et tu dis si t'aimes bien ou si t'aimes pas. Bah, politique, c'est un peu pareil. T'écoutes ce que disent les gens et tu dis, tiens, je suis plutôt d'accord avec lui, je suis plutôt pas d'accord avec elle. Voilà. Ça dépend juste de ta coupe de cheveux. Twitter te donnera la réponse. Oui. Oui, tu peux poser la question à Twitter. Twitter a une opinion sur le sujet. Et surtout, surtout, Twitter va te la donner, son opinion. Tu trouves pas ça inquiétant, les gens qui sont à 100% d'accord avec les idées de leur parti, statistiquement ça semble impossible et c'est pourtant très courant. Non, enfin, c'est normal que tu sois en accord avec un parti dont tu participes à la fabrication du programme, tu vois, c'est pas absurde. Non, ce que tu désignes, c'est l'abolition du discernement et de la distance critique. Et ça, c'est quelque chose d'assez fréquent et c'est normal quand t'es engagé, quand t'es militant. T'as tendance à devenir myope sur les turpitudes des tiens et particulièrement clairvoyant sur les turpitudes des autres. Mais ça, c'est, j'ai envie de te dire, bon. C'est pas grave, ça fait partie du truc. C'est comme quand tu supportes une équipe de foot, tu trouves qu'elle est quand même vachement forte, l'équipe que tu soutiens. Bah oui, mais c'est normal. Bon, au bout du bout, il y a un résultat. Bon, bah c'est pareil en politique. Et puis, par ailleurs, t'as aussi le droit de faire des compromis, tu vois. T'es pas obligé d'être 100% d'accord avec tout ce que défend ton parti. Mais tu peux estimer que ce qui te tient à cœur le plus dans ce que défend le parti vaut bien le fait de soutenir le reste. Tu t'en arranges. Tu fais un compromis et tu dis, bon, bah écoute, je suis pas d'accord avec tout, mais je défendrai quand même la totalité parce que c'est ce qui m'importe le plus. C'est quoi être libéral? C'est défendre la liberté et l'autonomie des acteurs individuels d'un système, fût-il économique ou politique. Privilégier l'absence de contraintes sur les agents, afin de leur permettre de réaliser par eux-mêmes. Voilà. De réaliser par eux-mêmes ce qu'ils veulent, parce que c'est leur liberté. Donc tu trouves du libéralisme en matière économique, par exemple, consiste à essayer de réduire les contraintes qui pèsent sur les agents économiques, celles qui produisent, celles qui consomment, baisser les impôts, baisser et réduire les tracasseries administratives, les réglementations. Tu peux avoir du libéralisme en matière politique. Permettre la liberté de chacun dans son expression, dans sa participation aux processus électoraux, dans sa réalisation de soi et dans son potentiel, dans sa responsabilité aussi. Voilà. Pour moi, le libéralisme était principalement économique. Non, enfin, historiquement, en tout cas, le libéralisme est d'abord politique. Les idées libérales, c'était les idées de la Révolution française. Les idées de la liberté. Liberté face au roi. Liberté face à l'Ancien Régime. Liberté des acteurs. Liberté des Français. Liberté de choisir son gouvernement. Liberté de voter pour qui on veut, etc. Le libéralisme est d'abord politique. Le libéralisme est anticolonialiste. Le libéralisme est. Et contre la ségrégation. Le libéralisme est pour la liberté des femmes, liberté de vote, liberté d'avorter, liberté de. Le libéralisme est pour le mariage pour tous. Et ensuite, il y a aussi un libéralisme en matière économique, qui là prévoit d'appliquer les principes et les préceptes de la liberté politique aux acteurs économiques dans le champ économique. Au risque de l'injustice. Tu serais capable de divertir en son compte entre libéral, libertaire et libertarien? Libertarien, c'est très, 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 très lié à l'espace culturel américain et à une vision radicale du libéralisme américain et de l'autonomie quasi absolue de l'individu. C'est très spécifique, les libertariens. C'est vraiment très américain. Et la différence entre libéral et libertaire, libertaire à l'exercice et dans l'histoire, c'est plutôt retrouvé dans une lutte contre l'oppression politique. Les libertaires, c'était contre le tsar en Russie et aussi contre le bolchevisme. Les libertaires en France, en Allemagne, c'était des pacifistes contre la militarisation, des objecteurs de conscience, notamment. Au Royaume-Uni, ça pouvait être aussi des libertés en matière de mœurs. Je sais pas, j'essaye de. Ouais, tu vas les retrouver. Libertaires, tu peux les retrouver. C'est une forme de l'anarchisme, d'ailleurs. Mais t'as bien compris que tous ces mots-là avec la même racine, donc c'est pour ça que j'ai vachement de mal à t'expliquer là, de manière courte, la différence entre les différents trucs. En fait, les différences, elles sont culturelles, historiques, sociales. Ça dépend dans quel moment tu utilises le mot, dans quelle phrase, pour désigner quoi, à qui tu t'adresses. Enfin, tu vois, c'est. Ça change le sens en fonction de l'époque et du contexte, éventuellement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, complètement. Bien sûr. Les libertariens en France, ça arrive progressivement quand même. C'est assez marrant de voir leur tech éclater sur Twitter et faire démonter par la moindre pélo. Ouais, il y en a quelques-uns, des libertariens. Il y en a toujours eu hein, en France, des originaux qui. Ouais, tu vas les retrouver du côté des survivalistes, du côté des anti-vax. Du côté des libertariens, les citoyens souverains, ce genre de dérive quasi sectaire chelou là. Bon. Crypto bro, ouais, c'est ça, des crypto bro, pro flingue, pro Elon Musk. Anti-radar sur les bords des routes. Je sais pas. Ouais, je suis désolé, je suis en train d'essayer de faire un nuage de mots pour. C'est souvent des mecs, hein. On est sur du mascu un peu vénère, hein. C'est-à-dire, bon, c'est des gens qui sont pour la liberté, mais à commencer par la leur. Celle des femmes, celle des homosexuels, celle des juifs, on verra après. Voilà. Je suis pour la liberté, à commencer par la mienne. Another white boy with a podcast. C'est pas bien vrai ce que tu nous dis là. De quoi? Non mais je me moque gentiment de l'alt-right américaine. Je me moque aussi un peu des crypto-bros, c'est vrai. C'est vrai, pardon. Les Musk Zouz, hashtag crypto, me font rire. Mais voilà. Franchement, il y a de quoi. Non, mais bon, après, voilà, on a le droit de se moquer de moi aussi. Voilà, hein, on est tous les caricatures de quelqu'un. Voilà, pas de problème. Tu fais des généralités, c'est pas joli. Excuse-moi, Jadot. T'as ton pseudo, c'est vraiment Jadot. Pardon, je fais pas de généralité. C'est dur quand même. Ton pseudo, c'est Jadot. Pardon. Not all crypto bro. Je vous l'accorde. Au pire, les crypto bros feront un thread Twitter et fin de l'histoire. Ah non. Mais non, mais je m'en fous en plus des crypto bros. Et puis je vais vous dire, le plus important, c'est que les crypto bros, ils s'en foutent de moi. Et ils ont bien raison. De toute façon, à l'heure qu'il est, les crypto bros, ils sont à 200 km/h sur l'autoroute du succès en Bugatti Veyron. Ils n'entendent pas ce que je dis. Ce soir, c'est soirée champagne à Ibiza, Into Poker à Dubaï. Voilà, donc si tu veux l'opinion d'un pauvre streamer de merde, seul dans sa piôle, sur Twitch, ils en ont rien à branler. Et ils ont bien raison. Je le leur accorde tout à fait. Vraiment. Ok. Vraiment, hein. Pas de soucis. T'es juste un jaloux. Si ça se trouve. Si ça se trouve. Ils t'entendent pas à cause des cris des huissiers à leur porte. Oui. Ils ont pas le temps de ils ont pas le temps de m'écouter en stream parce qu'ils sont en commission de surendettement à la Banque de France. Désolé. C'est Ils font du casino sur Kick. Tu te fais des idées préconçues sur les gens à la base du Bitcoin. Sans doute. Sans doute. Ouais. Je me fais sans doute des idées préconçues sur les gens à la base. Je me fais sans doute des idées préconçues sur les gens qui ont voulu faire fortune avec du Bitcoin plus tard. Et je me fais sans doute des idées préconçues sur les gens qui ont mis des photos de profil avec des singes qui tirent la tronche en 2019 et qui bizarrement depuis ont changé de photo de profil. J'ai pas la ref, eux non plus. Enfin, ils l'ont plus. Trop jaloux, ça se voit. Ouais, ça doit être ça. Bon, en attendant, vous savez que vous pouvez acheter des goodies Backseat sur la boutique. Point d'exclamation shop dans le chat. Ce sont des NFT, mais c'est des NFT particuliers parce que vous recevez vraiment quelque chose physiquement par la poste que vous pouvez porter et que vous pouvez revendre, si vous le souhaitez, à qui vous voulez, pour le prix que vous voulez. C'est un nouveau concept de NFT. Ça s'appelle les trucs totalement fongibles, les TTF. On est sur du full fongible. C'est physiquement, il y a du coton et tout, hein. Donc c'est mieux que les NFT. Et vous pouvez, alors peut-être faire fortune avec, j'en sais rien, je vous souhaite bien du courage. Si vous arrivez à le revendre très cher dans quelques années, GG, voilà, bravo à vous. N'hésitez pas à en profiter. Je viens d'exploser de rire dans l'open space, merci Jean, bon, de rien, chafaud. Ceci n'est pas un conseil financier. Ah non, vous démerdez, hein. Oh, démerdez-vous. Donc voilà. Vous pouvez aussi participer au financement de l'émission Backseat en faisant un don ponctuel ou un don régulier. Ce qui ne vous donne absolument aucun NFT. Ça vous donne la possibilité de faire partie du générique de l'émission, de faire partie des gens qui participent au financement de l'émission. Vous avez des contreparties cool parce que vous avez accès au VOD de l'émission juste après sa diffusion. Donc vous avez plein d'avantages qui eux aussi sont assez fongibles, on va pas se mentir. Et ceci n'est pas un investissement. Enfin, si, alors si, en fait, techniquement, c'est un investissement parce que vous investissez dans la démocratie. Ce sera rentable à très long terme. Alors, c'est déjà rentable. Quand vous faites un don à Backseat, vous appartenez au club restreint des gens qui peuvent dire « Ouais, je participe au financement de Backseat. » Ce qui, clairement, vous fait appartenir à une classe supérieure, hein, dans la société, on peut le dire. Ce qui garantit de l'admiration et du succès dans les yeux des autres, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de moi, ma reconnaissance éternelle. C'est le club privilège en fait. Ouais, c'est l'élite. Complètement. Et en plus de ça, votre argent sert à financer l'émission Backseat, donc ça paye le salaire des personnes qui font cette émission. Et ça vous permet du coup, dans 30 ans, de dire j'y étais, j'ai participé au financement de cette émission qui a depuis changé le monde, etc. Bon, ça, après, vous connaissez la suite de l'histoire, mais là aussi, il vaut mieux y être au début plutôt qu'à la fin. Voilà. J'y fus. Ouais, j'ai fait un don à Backseat en 2023. Ça, c'est une phrase qui, quand vous la sortirez en 2040-2045, vous vaudra de l'admiration dans les yeux de vos interlocuteurs. Et si on était là pour Acropolis? Ah, oh bah alors là. Voilà. Tu seras inter tu, voilà, vous serez interviewé dans le documentaire Netflix. Est-ce qu'il faut prendre une douche avant de venir à Backseat? Non, pas obligé. Bon, hey, les amis, je vais m'arrêter là. Il est déjà 19h15. Je vous rappelle que demain, on se retrouve à 18h pour une émission spéciale qui n'est pas Backseat, exceptionnellement, mais une émission spéciale en partenariat avec la Banque de France. La Banque de France, on va interviewer le gouverneur de la Banque de France. Pour répondre à mes questions sur la question de l'inflation et de la politique monétaire, il s'appelle François Villeroy de Galhau. Ce sera mon invité demain à l'occasion des rencontres de la politique monétaire. Soyez là demain à 18h en stream, ça va être trop cool. Ce sera où? Ce sera à la Banque de France. C'est un partenariat avec la Banque de France. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. À demain, ça va être cool. Passez une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Est-ce qu'on fait un raid? Y a qui stream? Putain, y a son père, on se fait chier là. C'est où les copains? C'est où les copains? Non, vas-y, pas de raid. Non, vas-y, pas de raid, on s'en bat les couilles. Une autre fois. Allez, des bisous. Salut à toutes et à tous. Ciao, bye. Au revoir.